Bonsoir. Je vous ai fait peur, excusez-moi. Je suis désolé. Ça va bien ? Merci d'être aussi nombreux pour cette conférence. Nouveau rendez-vous donc du Pôle Info Santé, créé il y a 19 ans maintenant. Merci de votre fidélité. Je sais qu'il y en a certains, certaines qui sont là à chaque fois. Je commence à reconnaître un peu les visages. Pôle Info Santé, qui est le fruit en fait du partenariat entre le CHU et dont l'une des missions, vous le savez, c'est l'éducation à la santé, je pense qu'ils réussissent plutôt bien. Puis l'espace Mendès France aussi, qui est un centre de culture scientifique et qui aussi transmet beaucoup d'informations avec brio aussi. L'objectif de ce rendez-vous, c'est de vous permettre, à vous, grand public, hein, d'échanger avec des professionnels du milieu hospitalier, de la santé, des généralistes qui sont là. Nos intervenants, vous les avez juste à ma droite, je vais vous les présenter dans un instant. Ils vont donc vous faire un exposé sur le sujet du jour, la thyroïde. À la fin des exposés, vous pourrez bien sûr poser toutes vos questions. On va passer à plusieurs avec des micros. Vous pourrez poser directement votre question. Je vous demanderai d'éviter de faire trop de cas général, en tout cas de faire trop de cas privés. Si vous avez une question qui vous concerne, essayez de la généraliser pour qu'elle puisse concerner un maximum de personnes. En sachant qu'en plus, les professeurs et docteurs qui sont là n'ont pas vos dossiers médicaux, évidemment. Donc, voilà, on ne va pas vous renseigner. Si vous êtes timide, il n'y a pas de souci. Vous pouvez, quand je vais passer, me donner sur le petit papier blanc que vous devez avoir dans vos dossiers, vous avez des feuilles libres, donc vous pouvez m'écrire la question, vous pouvez me la donner anonymement et je la poserai, il n'y a aucun problème. Vous avez justement entre vos mains tout un tas de documents qui vont vous permettre de poursuivre un peu cette soirée. Il y a quelques infos, il y a plein de choses. Il y a aussi une fiche d'évaluation, vous la connaissez pour les plus fidèles. Évidemment, elle est très importante, cette fiche d'évaluation, parce qu'elle nous permet d'améliorer chaque fois le rendez-vous, de faire des choses, des modifications, etc. Donc, je compte sur vous pour la remplir et nous la récupérons tout à l'heure à la fin de cette conférence. La conférence qui est traduite également à l'attention du public sourd. Merci, mesdames. Merci à vous. Bonne soirée. La thyroïde, c'est quoi ? À quoi sert-elle ? Le diagnostic, la prise en charge, les principaux problèmes ? Voici quelques-unes des interrogations auxquelles on va répondre, enfin, les spécialistes. Je vous souhaite donc la bienvenue à cette 96e conférence Pôle Info Santé, ici, à l'espace Mendès France. Je vous présente nos intervenants. On va commencer avec le professeur Richard Maréchaux, chef de service au service endocrinologie, médecine interne et maladies métaboliques au CHU de Poitiers. Bonsoir, professeur. Bonsoir. Professeur Jean-Louis Krempf, également chirurgien au service chirurgie viscérale endocrinienne au CHU de Poitiers. Bonsoir.
Bonsoir, messieurs dames.
Bonsoir au docteur Marie-Hélène Boin-Pinault, échographiste, également médecin nucléaire au CHU de Poitiers. Bonsoir. Et bonsoir au docteur Natacha Mérine, médecin généraliste. Bonsoir, docteur. Je vais donc vous céder la parole et je vous souhaite donc une très belle soirée. Prenez des notes, notez vos questions pour ne pas les oublier. Et on se retrouve donc d'ici une grosse demi-heure avec vos interrogations. Je laisse la parole au professeur Richard Maréchaux.
Merci beaucoup et merci aux organisateurs et aux partenariats de la ville de Poitiers, Espace Mendès France et le CHU de nous avoir invités à parler sur cette question de la thyroïde. Question qu'on a déjà abordée il y a de nombreuses années, je ne sais plus trop quand exactement, mais il est toujours intéressant de remettre le sujet sur le tapis. Donc ici, vous avez la présentation des intervenants qu'on vient de faire. Et donc moi, je vais vous parler surtout des deux premiers points de cette diapositive. Qu'est-ce que la thyroïde et quels sont les principaux problèmes de la thyroïde? Alors, qu'est-ce que la thyroïde? C'est une petite glande qui se trouve à la base du cou, à peu près à l'endroit où on boutonne le premier bouton de sa chemise. Qui a une forme en papillon avec qu'on voit mieux dans la partie basse. Je sais pas si, oui, on voit ma flèche, ça va. Donc avec un lobe à droite, un lobe à gauche et puis une petite zone intermédiaire qui relie ces deux lobes et ça fait une forme de papillon. Alors la particularité de cette glande, c'est que elle est très soudée. Enfin, elle a des elle a une soudure, enfin pas complète, mais avec les organes de voisinage, en particulier avec la trachée. Et c'est une langue que nous, médecins, nous reconnaissons facilement lorsque nous examinons les patients par le fait que quand elle est plus grosse que la normale ou quand il y a une boule qui est développée dessus, elle ascensionne à la déglutition. Donc en consultation, souvent, on offre l'apéritif aux patients. On les fait déglutir et en palpant, on sent la petite boule qui... ou la grosseur de la thyroïde qui monte, qui permet de différencier facilement d'une grosseur de cette région qui pourrait être tout à fait indépendante de la thyroïde. Alors, à quoi sert la glande thyroïde? La glande thyroïde, c'est une hormone qui est c'est une glande hormonale qui est extrêmement importante, qui sécrète, vous voyez ce petit papillon ici à base du cou, elle sécrète deux principales hormones qu'on appelle la T3 et la T4, c'est-à-dire la thyroxine et la triiodothyroïdine. Alors pourquoi la T3 et la T4? Parce que cette hormone est fabriquée de façon indispensable avec l'aide d'un oligoélément qui s'appelle l'iode. Avec cet iode, on fabrique ces deux hormones. T4, ça veut dire qu'il y a 4 atomes d'iode dans la fabrication de la T4, et T3, ça veut dire qu'il y a 3 atomes d'iode. Alors cette T3 et T4, une fois qu'elles sont libérées de la thyroïde, elles vont aller par tout l'organisme jouer un rôle important dans le fonctionnement du système nerveux, le développement du système nerveux chez l'enfant également, sur la régulation de la température du corps, sur la régulation de la dépense et de la consommation d'énergie, sur la régulation du fonctionnement cardiaque, en particulier du rythme cardiaque, sur la régulation du tube digestif, en particulier l'intestin, et puis sur la régulation du système hormonal, plus particulièrement du système hormonal féminin. Vous voyez que c'est les hormones thyroïdiennes, ça, à partir de cette toute petite glande qui est de la grosseur de la moitié du pouce, si vous voulez, tout du moins pour la partie droite et même chose pour la partie gauche, eh bien, il y a des hormones qui vont aller... fonctionner un peu partout, et le jour où ça fonctionne mal, soit en excès, soit en défaut, eh bien, il y a tout un tas de troubles qui peuvent survenir et qui peuvent être parfois importants. Alors, je vous ai dit que l'iode est un élément absolument essentiel à la fabrication des hormones thyroïdiennes, et cet iode, eh bien, vient tout simplement de l'alimentation. Et les principaux aliments qui apportent de l'iode, eh bien, c'est en particulier les fruits de mer. Donc, gorgez-vous d'iode avec des huîtres pour les fêtes de Noël. Votre thyroïde n'en sera que plus contente. Les poissons, un degré moins de l'élétage. Il y a pas mal d'iode dans les œufs aussi. Et puis, on trouve de l'iode dans la viande, dans les céréales, les légumes secs, les légumes verts et puis les fruits. Voilà. Alors, malgré cela... Eh bien, il semblerait qu'en France, on soit un pays qui est relativement carencé en iode d'origine alimentaire. J'ai oublié de le dire, c'est important. On trouve également de l'iode dans le sel qu'on ajoute dans les aliments, mais à condition, et ça, il faut lire sur l'étiquette, qu'il soit enrichi, qu'il soit additionné en iode. Le dernier point sur l'apport d'iode, c'est qu'on peut trouver aussi de l'iode dans certains médicaments. Et certains médicaments contribuent parfois à favoriser des dérèglements thyroïdiens, soit en excès, soit en défaut, ce qu'on pourra peut-être amener à discuter ultérieurement. Alors la glande thyroïde, comment elle fonctionne? Eh bien, elle fonctionne de façon importante sous l'effet du cerveau. Et au niveau du cerveau, il y a deux zones importantes qui sont des zones de régulation. Il y a l'hypothalamus et il y a l'hypophyse qui sécrètent des hormones qui s'appellent la TRH et la TSH. Et ces hormones permettent de stimuler ou de freiner la glande thyroïde en fonction des besoins de l'organisme. Et à partir des hormones T3 et T4 qui sont libérées dans le torrent circulatoire sous l'effet de cette commande centrale, eh bien, il y a un effet de rétrocontrôle sur les centres hypophysaires. Alors, retenez surtout le mot de TSH, puisque la TSH est une des hormones clés qu'on est amené à doser. Le docteur Boinpineau vous en parlera tout à l'heure lorsqu'on explore la fonction thyroïdienne. Alors, on va passer rapidement au point suivant, quels sont les principaux problèmes de la thyroïde. Les principaux problèmes de la thyroïde, c'est quand elle sécrète des hormones en quantité insuffisante ou inversement en quantité excessive, c'est-à-dire hyper ou hypothyroïdie, soit quand la glande thyroïde est hypertrophiée, c'est-à-dire quand elle est trop grosse dans son ensemble, ça s'appelle un goitre diffus, soit quand elle est grosse de façon ponctuelle, c'est ce qu'on appelle un nodule, et il peut y avoir plusieurs nodules chez une même personne. Et puis on verra pour terminer quelques noms d'affections thyroïdiennes. Donc vous voyez ici, la glande thyroïde, eh bien, le médecin, quand il examine le patient, généralement il se place derrière lui, il lui offre l'apéritif, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour le faire déglutir et sentir la glande thyroïde qui monte à la déglutition. Et il peut repérer ainsi sous ses doigts une petite boule ou une hypertrophie globale de la thyroïde. Quand la thyroïde est franchement hypertrophiée, eh bien, il suffit de regarder le cou de la personne pour voir qu'il y a une intumescence globale sur la thyroïde, au niveau de la thyroïde. Et puis on peut mesurer le tour de cou qui est plus ou moins augmenté quand il y a un goitre diffus. Alors l'hyper et l'hypothyroïdie, eh bien, il y a tout un tas de symptômes qui peuvent survenir, extrêmement variés, compte tenu justement de la multiplicité des organes qui sont les cibles des hormones thyroïdiennes. Alors le cœur, je vous en ai parlé tout à l'heure, donc le cœur, quand la glande thyroïde fonctionne au ralenti, eh bien le cœur fonctionne aussi au ralenti, il bat de façon très lente. Inversement, quand il y a un hyperfonctionnement thyroïde, le cœur fonctionne de façon excessive, il y a une accélération du rythme cardiaque, parfois il y a un dérèglement du rythme cardiaque plus sévère et qui peut être très mal toléré, en particulier chez les personnes âgées. Alors le poids, je vous ai dit qu'il y a une régulation des dépenses caloriques. Eh bien, on a tendance à prendre du poids quand on a une hypothyroïdie et à perdre du poids quand on a une hyperthyroïdie. Et la particularité, c'est que c'est ce qui nous met sous la voie sur le plan médical, c'est qu'il y a un paradoxe dans le fait que les personnes qui prennent du poids du fait d'une hypothyroïdie trouvent ça bizarre parce qu'elles ont une réduction de l'appétit. Elles mangent moins que d'habitude. Donc je ne comprends pas, docteur, je prends du poids alors que finalement je mange moins qu'avant. Et inversement, dans l'hyperthyroïdie, on perd du poids alors que l'appétit est exacerbé. On mange plus que d'habitude et malgré tout, on perd du poids. Ce qui peut se voir également quand on a du diabète sucré. Alors, quand, sur le plan de l'intestin, eh bien, l'intestin marche au ralenti. On est constipé quand on a de l'hypothyroïdie, on a diarrhée quand on a de l'hyperthyroïdie. Le système musculaire peut être affecté aussi sous forme de douleurs, de crampes musculaires quand on a de l'hypothyroïdie et sous forme d'une faiblesse musculaire. On est incapable, on n'a plus la force musculaire de se relever, par exemple, d'une chaise sans l'aide de la force des bras. Le système cutané et pileux est également concerné, surtout quand on a de l'hypothyroïdie avec une chute des cheveux, une dépilation des aisselles, parfois une dépilation des organes génitaux. Je vous ai dit qu'il y a une régulation de la température. On est anormalement frileux quand on a de l'hypothyroïdie et on ne supporte pas la chaleur quand on a de l'hyperthyroïdie. La peau est très sèche quand on a de l'hypothyroïdie. La peau est au contraire très moite. On a une sudation excessive quand on a de l'hyperthyroïdie. Et puis, sur le plan du système nerveux, hein, puisque je vous ai dit qu'il y avait une action sur le système nerveux, eh bien, on se désintéresse de tout. On est dépressif, on perd la mémoire. Quand on a de l'hypothyroïdie, au contraire, on est complètement énervé, voire agressif. On a du mal à dormir correctement quand on a de l'hyperthyroïdie. Et chez les femmes, il peut y avoir des troubles des règles, voire une disparition des règles, alors que les conséquences, je dirais, génitales de l'hyper ou de l'hypothyroïdie sont moins nettes chez l'homme. Donc voilà quels sont les principaux signes qui, évidemment, peuvent être complètement combinés. Parfois, vous avez des patients dont le seul symptôme, et on en cherche d'autres, on n'en trouve pas, c'est qu'il a des crampes musculaires ou simplement de la constipation. Et puis, il y en a d'autres qui collectionnent toute la liste qu'il y a à gauche quand ils ont de l'hypothyroïdie ou qu'il y a à droite quand ils ont de l'hyperthyroïdie. Alors voici ici deux faciès tout à fait opposés d'une personne à gauche qui a une hypothyroïdie, qu'on sent hébété, désintéressé un petit peu de tout, le visage bouffi. Quand on touche ses cheveux, ils sont tous secs. Éventuellement, ils tombent facilement quand elle brosse ses cheveux pour faire sa toilette. Et puis à droite, on a cette personne qui a le visage, très brillant, qu'on sent énervé, sa glande thyroïde est très gonflée. Et cette personne ici a une caractéristique de certaines situations d'hyperthyroïdie où les yeux sont ressortis. C'est ce qu'on appelle une exophtalmie. On pourra y revenir si vous voulez tout à l'heure. Bon, brièvement, quand la thyroïde est globalement hypertrophiée, on appelle ça un goitre diffus. Dans ces cas-là, soit la fonction thyroïdienne est normale, soit il y a des situations où il y a une hypertrophie globale de la thyroïde avec une hyperthyroïdie en plus, et d'autres fois où il y a une hypertrophie globale de la thyroïde avec une hypothyroïdie. À droite, il y a la question des nodules, où on peut avoir une grosseur isolée ou située en plusieurs endroits de la thyroïde, qui peut correspondre soit à une petite tumeur bénigne, soit beaucoup plus rarement à un cancer. Le professeur Krem vous en parlera plutôt tout à l'heure. Et quelques noms de maladies thyroïdiennes. Donc, les noms qu'il faut savoir, c'est maladie de base d'eau, goitre et exophtalmie. C'est les personnes qui ont de l'hyperthyroïdie avec les yeux qui ressortent et ils ont la glande thyroïde globalement gonflée. Thyroïdie de Hashimoto sont les personnes qui ont la glande gonflée et qui ont d'hypothyroïdie. Un adénome de la thyroïde, eh bien, c'est une petite boule isolée sans hyper- ou hypothyroïdie qui est bénigne et qu'on va plutôt opérer quand elle est trop grosse. Il peut y avoir un cancer de la thyroïde, mais c'est beaucoup plus rare. Et puis, il y a des maladies particulières, des dérèglements particuliers de la thyroïde qui surviennent spécifiquement dans les 6 mois qui suivent une grossesse. Bon, ce n'est pas exhaustif ce que je vous ai mis là, mais c'est simplement pour vous fixer les idées. Pour terminer, quelques chiffres. L'hypertrophie globale de la thyroïde concerne à peu près 10 à 14% de la population adulte, donc l'hypertrophie globale. L'hypothyroïdie ou l'hyperthyroïdie avérée avec tout ou partie des symptômes que je vous ai listés, ça concerne 1 à 2% des personnes adultes. On ne parlera pas des enfants. Enfin, moi, je n'ai pas prévu de vous en parler directement. On pourra venir sur les questions si vous voulez. Les nodules thyroïdiens palpables, c'est-à-dire quand un médecin vous examine, il trouve une boule ici, ça concerne 4% des personnes adultes. Par contre, dès l'instant où on vous met sur le cou une petite sonde d'échographie, et le docteur Boimpinot vous en reparlait, eh bien, la prévalence plus exactement des nodules peut arriver à 50 ou 60% dès l'instant où on arrive sur des tranches d'âge de 50 ou 60 ans. Donc tout dépend si on s'intéresse à des nodules assez gros palpables ou s'ils sont tout petits et on peut les trouver un petit peu dans n'importe quelle circonstance, on sera peut-être amené à en parler. Bon, je passe sur cette figure qui ne fait qu'illustrer ce que je viens de vous raconter sur la prévalence. Pour terminer sur l'épidémiologie, les nodules, donc vous avez vu quand ils sont palpables 4%, 95% des nodules sont parfaitement bénins et seulement 5% voire moins sont cancéreux. Et pour terminer sur des chiffres liés au cancer, le cancer de la thyroïde est un cancer rare. Ça ne représente que 1% de l'ensemble des cancers. Et en France, il y a une détection d'environ 4000 cancers de la thyroïde par an, alors que dans le même temps, on trouve 40 000 cancers du sein ou 40 000 cancers de la prostate. Enfin, le dernier élément sur lequel on sera amené à discuter tout à l'heure, c'est que le pronostic vital d'un cancer de la thyroïde n'a rien à voir avec celui d'un cancer du sein. Ce sont exceptionnellement des maladies qui mettent en jeu le pronostic vital à court, à moyen ou même à long terme. Donc c'est une problématique complètement différente. Alors la dernière partie, je ne fais que le dire... parce que c'est quels sont les examens possibles quand on a un problème thyroïdien. Ça, c'est le docteur Boimpinot qui va vous en parler, les dosages, les images. Et quels sont les traitements possibles? Eh bien, c'est le professeur Krems qui va surtout vous en parler pour ce qui est de la chirurgie de la thyroïde, la chirurgie des nodules, la chirurgie des cancers. Et puis moi, pour la partie médicale du traitement de l'hypo et de l'hyperthyroïdie, je ne vous en parle pas, je vous en parlerai en fonction des questions que vous me poserez. Simplement ici, la photo de cette dame que vous avez vue tout à l'heure, elle a une hypothyroïdie, et bien quelques mois après la prise d'hormones thyroïdiennes, c'est simplement un comprimé régulièrement tous les matins avant le petit déjeuner, et bien elle a rajeuni d'une quinzaine d'années, et tous ces symptômes ont disparu au bout de quelques mois. Voilà, donc je laisse la place à mes collègues pour la suite de cette présentation introductive.
Donc la thyroïde, on vous a déjà situé là, cette thyroïde qui est face à l'axe trachéal avec ses deux lobes en forme de papillon séparés par une partie médiane qui est l'isthme et entre les gros vaisseaux du cou droit et gauche. Ah, marche plus votre truc. Il marchait tout à l'heure.
Tu veux avancer?
Ben oui, je vais avancer.
Comme ça, vous avez le temps de lire tous les... toute la liste à droite. Pyramide de l'alouette.
Surtout le lobe droit et le lobe gauche, et surtout face à la trachée. Bon, mais je voudrais bien que ça marche, ça. Ça marchait tout à l'heure avec vous. Bon, bah, dommage.
Sinon, je vais te les passer.
Ben, ouais. Tu sais, c'est comme il y a pas mal d'images, alors... Bon, fou, oui, mais...
C'est ici, sinon ?
Oui, oui. Comment ça se fait que ça ne marche pas ?
Suite à un problème.
Dis-moi, tu avances ?
Oui, avance. Bon, avant, ouais. Non. Donc, alors, quand on parle des on m'a demandé de parler des explorations qui sont utiles pour explorer la pathologie thyroïdienne. Il faut dissocier les anomalies de forme de la thyroïde, qui sont, comme l'a dit M. Maréchaux, les goitres avec nodules, c'est-à-dire la thyroïde qui est plus grosse, la thyroïde qui est bosselée avec les nodules, voilà, pour lequel la palpation est importante. Et puis, vous avez les anomalies, la palpation va être complétée par des explorations qu'on détaillera tout à l'heure. Et il y a les anomalies du fonctionnement hormonal que l'on doit évoquer lorsqu'il y a un retentissement clinique, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui grossit, qui maigrit, qui a trop chaud, qui a de la diarrhée. Et à ce moment-là, c'est la biologie, c'est les examens biologiques. Il faut bien dissocier les anomalies de taille avec la palpation et les anomalies du fonctionnement, donc de la clinique pour lequel c'est les dosages qui sont utiles. Donc, un petit rappel dont on a déjà parlé. Donc, la thyroïde est une glande endocrine qui fabrique deux hormones thyroïdiennes à partir de l'iode apporté par l'alimentation, la T4 et la T3, pardon. Cette sécrétion hormonale, elle est sous la dépendance d'un chef d'orchestre qui est l'hypophyse, qui fabrique de la TSH, qui stimule le fonctionnement de la thyroïde. La thyroïde fabrique les hormones thyroïdiennes, la T4 et la T3, et va freiner le fonctionnement de l'hypophyse. Ce qui, en clair, veut dire que lorsque la thyroïde fabrique trop d'hormones, elle freine la sécrétion de l'hypophyse, donc elle freine la sécrétion de la TSH qui devient basse. C'est donc l'inverse. Donc, premier dosage, quand on pense qu'il y a un dérèglement de fonctionnement de la thyroïde, c'est le dosage de la TSH, ce chef d'orchestre. C'est l'indicateur le plus précoce d'un dérèglement hormonal. S'il y a un tout petit peu trop d'hormones thyroïdiennes, la TSH va baisser et on s'orientera vers une hyperthyroïdie, c'est-à-dire un hyperfonctionnement. À l'inverse, si la thyroïde ne fabrique pas assez d'hormones thyroïdiennes, à ce moment-là, la TSH va monter et vous avez un fonctionnement qui est diminué. Une fois ce diagnostic d'hyperthyroïdie, d'hyperfonctionnement ou d'hypothyroïdie, vous allez chiffrer l'importance de ce dérèglement hormonal en dosant uniquement les hormones thyroïdiennes et en pratique, on dose la T4. Et c'est en fait ce dosage qui est fait en deuxième temps qui va nous dire si la maladie est grave ou pas grave, si l'hyperthyroïdie est importante ou vice-versa, très faible, très peu importe. L'étape numéro 3, qui est une étape facultative, entre guillemets, elle va d'une part nous donner une idée de la cause de ce dérèglement hormonal, qu'il s'agisse d'une hyperthyroïdie ou d'une hypothyroïdie, et c'est avant tout le dosage des anticorps antithyroïdiens. Bon, il y en a trois types, les AAT, les TPO et les TRAC. Les AAT et TPO, c'est surtout quand on a une hypothyroïdie et les TRAC dans une hyperthyroïdie telle qu'une maladie de basse d'eau, dont on vous a parlé tout à l'heure. Et enfin, les dosages des marqueurs tumoraux, il y en a deux. La calcitonine, qui est un marqueur préopératoire devant tous les nodules thyroïdiens pour dépister le cancer, un cancer qui est rare, mais qui est important de dépister avant une chirurgie, qui est le cancer médullaire de la thyroïde, on en parlera peut-être tout à l'heure. Et le deuxième marqueur, qui est la thyroglobuline, est un marqueur, cette fois-ci, du suivi des cancers thyroïdiens opérés. Ce n'est pas un marqueur préopératoire comme la calcitonine. Il ne doit être fait que lorsque le patient a été opéré d'un cancer thyroïdien, cette fois-ci différencié. Une fois cette étape donc de dosage faite, Voilà, une fois ces dosages-là, on va s'attaquer aux anomalies maintenant de forme et de taille de la thyroïde, pour lequel la palpation va nous dire « oui, il y a quelque chose ». Donc, première étape, c'est la palpation du cou, soit en position assise, soit en position couchée, le médecin étant derrière le patient et examinant le cou du patient. Une fois cette palpation faite, vous avez une suspicion de goitre, une suspicion de nodule, donc de bosse. Vous allez passer à l'examen qui est devenu l'examen clé de l'exploration thyroïdienne, qui est l'échographie. Bon, tout le monde connaît l'échographie. C'est l'examen que l'on fait chez les femmes enceintes pour surveiller les grossesses. C'est une technique qui est anodine, non invasive, qui suffit de... On déplace une sonde par l'intermédiaire d'un gel. Cette échographie va nous permettre de voir la taille, la forme de la thyroïde, l'aspect global du parenchyme, et on va chercher par exemple des signes d'auto-immunité. Par exemple, là, vous avez une thyroïde normale, vous voyez, qui est plaquée sur l'axe trachéal avec le lobe droit, le lobe gauche et l'isthme. Bon, ça, c'est l'échogénicité, comme je dis, c'est en fait l'aspect du tissu thyroïdien. C'est un aspect normal par rapport aux muscles, vous voyez là. Et là, en revanche, dessous, je vous ai mis des exemples de tissus, comme je dis, plus inflammatoires, hypoéchogènes, comme on dit, que l'on pourra voir aussi bien dans les thyroïdies chroniques, c'est-à-dire dans les hypothyroïdies auto-immunes, que dans les hyperthyroïdies auto-immunes, c'est-à-dire les maladies de base d'eau. Donc, échogénicité. Deuxième point important, les caractéristiques des nodules thyroïdiens. Un nodule, c'est une zone de la thyroïde qui est différente du tissu normal. Donc là, par exemple, on va dissocier un nodule qui est là, qui sera tissulaire. Là, à l'inverse, vous voyez, il est vide d'écho, comme on dit, c'est un kyste. Et ici, vous avez un nodule qui sera mixte, à la fois liquidien et à la fois tissulaire. Une fois précisés ces nodules, on peut aussi aller plus en détail, c'est-à-dire qu'on va voir s'il est plus hypoéchogène, plus hyperéchogène, isoéchogène. Bon, toutes les caractéristiques sont possibles. Et en fait, là, sa vascularisation va être étudiée également. Et on va rechercher essentiellement des critères de suspicion de malignité avec une hypervascularisation, des microcalcifications, vous voyez ici, un caractère abrupt, comme là, voilà, avec une déformation de la capsule et surtout une hypervascularisation anarchique. Ces critères de suspicion de malignité sont à rechercher, et c'est le but de l'échographie quand il analyse et répertorie tous les nodules. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il va falloir sélectionner ceux qu'on devra faire opérer. La deuxième et dernière étape de l'échographie qui est tout aussi importante, c'est l'analyse des aires ganglionnaires. Avec, par exemple, là, je vous ai mis un ganglion normal, mais là, vous avez également un ganglion qui, à l'inverse, normal, je dis pourquoi, parce qu'il a un île central, et là, vous avez un ganglion anormal qui ne ressemble plus à rien du tout et qui est hypervascularisé de façon anarchique et qui va nous donner des orientations vers un processus carcinomateux. Deuxième examen, c'est la cytoponction thyroïdienne qui a pris un essor énorme depuis ces 5 dernières années. Et son but est de compléter l'acte d'échographie, en fait, et de sélectionner les patients qui sont candidats à la chirurgie. Et ça s'adresse à des nodules, en fait, qui sont plus d'un centimètre et qui sont considérés comme suspects à l'échographie. Alors, le principe est simple. Voilà, le patient est allongé. C'est une technique qui est faite en ambulatoire, c'est-à-dire le patient n'est pas hospitalisé. Il n'y a pas d'anesthésie. Ça consiste à repérer avec une sonde échographique le nodule que on regarde. Et en même temps, vous voyez, on pique avec une toute petite aiguille. On recueille quelques gouttes de sang. On fait un frottis et on l'envoie analyser. C'est une technique non invasive, je ne vous dis pas d'anesthésie. La seule chose, c'est qu'il faut que les patients soient décontractés et non stressés. Parce que comme vous l'avez vu tout à l'heure, la thyroïde est plaquée sur l'axe trachéal et dès que le patient avale sa salive, le nodule monte et nous, notre aiguille, elle n'est plus à l'endroit où on veut. Donc en fait, c'est le seul inconvénient, il faut être décontracté. Alors, les résultats, évidemment, on les classe dans différentes catégories. Il y a les cas où, évidemment, il n'y a pas assez de cellules. Il y a les cas où on doit le refaire, en sachant qu'on peut avoir 10% de cancer dans ces cas-là. Donc, la règle, c'est que si deux fois de suite, on n'a pas assez de cellules, il vaut mieux le faire enlever. Il y a les résultats qui sont probablement bénins, donc dans 97% des cas. Il y a les résultats suspects ou douteux avec les étiologies auxquelles ça correspond, où là, on ne va pas prendre de risques la plupart du temps. Et enfin, les résultats malins, où c'est très évocateur du cancer. Enfin, dernier examen, la scintigraphie thyroïdienne. Le principe, il est simple. Ça consiste à injecter par voie veineuse un produit radioactif qui est un isotope de l'iode naturel, c'est le technétium, qui n'est pas très irradiant, enfin qui n'est pas irradiant, qui n'entraîne aucune réaction allergique. Ce produit va se fixer sur la thyroïde et au bout de 20 minutes, vous demandez à votre patient, je demande à ceux qui sont dans le service, là, de voir, ils reconnaissent la personne. La personne s'allonge et vous avez un appareil au-dessus de vous qui est donc la caméra qui va détecter les rayonnements gamma qui sont émis par le technétium qui est fixé sur la thyroïde. Et ça vous donne une image vraiment de la thyroïde, telle que vous avez là. Alors pourquoi on fait cette scintigraphie ? Cette scintigraphie, maintenant, il n'y a plus qu'une seule indication formelle, c'est l'hyperthyroïdie, c'est-à-dire la TSH basse. L'hyperthyroïdie, c'est donc l'hyperfonctionnement de la thyroïde. Et la scintigraphie va nous dire, en fait, quelles sont les zones de la thyroïde qui fonctionnent de trop. Est-ce que c'est toute la thyroïde ? Donc là, vous avez une thyroïde normale. Alors, est-ce que c'est toute la thyroïde qui fonctionne de trop ? Et vous allez, parce que tout fixe de la même façon et très rapidement, et on s'orientera vers une hyperthyroïdie auto-immune, ce que l'on a appelé tout à l'heure maladie de base d'eau. Est-ce que vous avez une seule zone qui fixe le produit radioactif en regard d'un nodule que l'on palpe, et c'est un nodule toxique. Et vers ça, on va s'orienter vers une chirurgie ou de l'iode radioactif si le patient est trop âgé. À l'inverse, j'ai oublié de vous dire que pour la maladie de base d'eau, en revanche, c'est toute la thyroïde qui fonctionne de trop. On va s'orienter plutôt vers un traitement médical par antithyroïdienne synthèse. À l'inverse, là maintenant, vous avez un goitre hétérotoxique, comme on dit, c'est-à-dire que vous avez des nodules qui fonctionnent de trop, qui fabriquent trop d'hormones thyroïdiennes. Et puis à côté de ça, vous voyez, il y a une zone là qui ne fixe pas beaucoup, c'est un nodule froid. Donc ça, c'est la même chose, ça sera chirurgie ou iode radioactif selon l'âge du patient. Et enfin, vous avez le cas de l'hyperthyroïdie, où par exemple, là, il n'y a plus rien. On ne voit pas la thyroïde. Et là, on peut s'orienter notamment vers une thyroïdite virale, inflammatoire, où en fait, l'hyperthyroïdie ne reflète que la destruction des cellules liées à l'inflammation. Et c'est un traitement anti-inflammatoire qu'on va prescrire aux patients. Donc, vous comprenez qu'en cas d'hyperthyroïdie, c'est la scintigraphie qui va définir la conduite à tenir et la prise en charge. Donc là, je vous ai mis par exemple un exemple d'hyperthyroïdie auto-immune où on voit très bien que cet hyperfonctionnement reflète une hypervascularisation avec une hypoécogénicité également. Enfin bref. Donc là, après, vous avez l'exemple d'un nodule, pareil, toxique, avec une hypervascularisation qui reflète cet hyperfonctionnement de la thyroïde qui est localisé. Et si on donne un traitement par iode radioactif, c'est en fait l'iode ira se fixer sur ce nodule et le réduira, l'asséchera. Enfin, une dernière indication anecdotique quand même, enfin pas anecdotique, mais enfin une autre indication de la scintigraphie, ça peut être la recherche d'un gros prolongement d'autoraxie. Vous voyez, cette patiente avait une scintigraphie avec une thyroïde qui paraissait en situation cervicale, qui fixait mal, et en réalité, il y avait un prolongement médiastinal qui descendait beaucoup plus bas. L'autre indication étant, chez le nouveau-né, les hypothyroïdies néonatales, c'est-à-dire des enfants à la naissance, vous savez qu'il y a un dépistage à la naissance des hypothyroïdies et on dose uniquement la TSH. Et si cette TSH est élevée chez les nouveau-nés, on va nous demander, nous, de rechercher une anomalie de la thyroïde, c'est-à-dire est-ce qu'il est né avec une thyroïde ou est-ce que cette thyroïde existe, mais à un endroit inhabituel tel que la langue ou le médiastin. Donc la scintigraphie est intéressante. Et donc, je terminerai juste sur le l'iode 131 en disant que l'iode 131 est un produit radioactif qui émet des rayonnements gamma, donc comme le technétium dont je vous ai parlé. Donc, ça permet une imagerie. Mais ça émet surtout des rayonnements bêta qui nous permettent de détruire les cellules et que l'iode 131 est la base du traitement et de la thérapie métabolique à la fois des cancers thyroïdiens différenciés après la chirurgie et le traitement de certaines hyperthyroïdies. Et je terminerai sur cette chambre parce que tous les patients qui ont peur du traitement par iode 131, qui imaginent qu'ils sont dans un bunker sans fenêtre, sans rien, voilà la chambre de thérapie physique où les patients restent pour éliminer la radioactivité en fait dans la chambre et pour ne pas irradier leur entourage. Voilà, merci.
Bien, bonsoir. Donc, je vais vous présenter un petit peu le versant chirurgical de ces maladies. Pour vous dire en quelques mots et répondre aux questions après, pourquoi opérer ? Donc, c'est la première question. Et puis, pour vous dire un peu comment se passent ces opérations pendant et après. Alors, pourquoi opérer ? Vous avez compris que, par l'exposé notamment de Richard Maréchaux, que le problème des nodules était un problème assez fréquent. Si on fait effectivement une échographie aux gens de plus de 50 ans, une personne sur deux va avoir des nodules. Ça ne veut pas dire pour ça que ces nodules sont dangereux, ça ne veut pas dire pour ça qu'il faut tous les opérer. Et toute la stratégie un petit peu d'examen que fait Marie-Hélène Boimpineau, par exemple, consiste à dépister les nodules qui peuvent poser problème. Tout le souci, c'est que ces examens n'ont pas toujours une fiabilité à 100% et qu'on est confronté des fois donc à des difficultés d'interprétation de ces examens. Et du reste, on est amené à en discuter dans des réunions multidisciplinaires éventuellement. Alors, pourquoi opérer ? Je vous ai mis le plus souvent pour des nodules. Parce qu'effectivement, c'est l'indication la plus fréquente. Mais on peut être amené à opérer dans le cas d'hyperthyroïdie qui pose problème, si elles sont focalisées, par exemple, au niveau de nodules, ou si, dans des maladies de base d'eau, par exemple, des hyperthyroïdies diffuses, cette maladie récidive malgré un traitement bien conduit. Donc, le plus souvent, l'indication opératoire sont des nodules. Ce sont les gens qui viennent nous voir donc, pour ces grosseurs qui sont apparues au niveau du cou, qui ont été dépistées soit par eux, très simplement, hein, une boule qui monte et qui descend à la déglutition, ou par leur médecin, puisque l'examen cervical est de plus en plus fait couramment à titre de dépistage. Alors, donc, le dysfonctionnement peut être un motif d'indication chirurgicale, mais aussi le volume de ces nodules. Et là, je vous ai mis un petit exemple. Je pense qu'il ne faut pas attendre d'avoir un petit nodule tel que celui-là pour venir consulter. Donc, ça ne veut pas dire pour autant que c'est un cancer, mais c'est un énorme nodule qui, vous le concevez, va gêner énormément cette patiente. Et donc là, l'indication, ce ne sera pas forcément la crainte d'un cancer, mais ça sera tout simplement un problème fonctionnel lié à cette grosseur. Donc je pense que le volume en lui-même des nodules peut entraîner une indication opératoire. Alors, le deuxième élément qui va rentrer en ligne de compte, c'est la compression. Vous comprenez bien qu'un tel nodule, tel que vous l'avez vu chez la patiente précédente, va entraîner des compressions des organes de voisinage. Et au niveau du cou, qu'est-ce qu'on a comme organe essentiellement ? C'est la trachée qui conduit l'air, qui vous permet de respirer. C'est l'œsophage qui vous permet d'avaler les aliments. Et c'est éventuellement le retour veineux du cerveau qui peut être comprimé de façon plus exceptionnelle. Donc, l'élément le plus important, c'est l'axe aérien, et on peut avoir des compressions extrêmement importantes. Là, vous avez une coupe de scanner. Alors, voilà ma flèche.
On la voit sur l'écran ?
Oui, on la voit. C'est bon. Donc, vous avez une coupe qui est au niveau médiastinal, hein, c'est-à-dire au niveau du thorax, avec ici les poumons. Et vous voyez ici une grosse formation nodulaire qui correspond à donc, un volumineux nodule thyroïdien qui lamine la trachée que vous voyez ici, qui ici est complètement raplatie, alors qu'elle devrait être centrale, placée ici. Donc on comprend bien que là, eh bien, il existe une indication opératoire formelle. Sur cette coupe qui est un petit peu comme ceci, transversale, Vous voyez très bien le long plaqué le long du rachis, cette volumineuse lésion thyroïdienne qui occupe toute la place entre le sternum et l'axe du rachis et qui plonge dans le médiastin. Donc là aussi, une indication opératoire du haut volume. Et là, sur cette coupe un petit peu faite dans un plan frontal, comme ici, vous voyez très bien donc les poumons de chaque côté. Et ici, ce volumineux nodule à la fois cervical, au niveau du cou ici, mais qui plonge dans le médiastin et qui va écraser complètement la trachée qui est ici. Et on voit à peine à ce niveau-là le passage de l'air. Donc on conçoit que ces gens soient extrêmement gênés et on est amené donc à, bien sûr, à les opérer sans pour autant qu'il s'agisse de cancer. Donc le développement intrathoracique est une des raisons donc aussi éventuellement d'opérer. L'évolutivité de ces nodules est aussi un élément important. On est amené à surveiller un certain nombre de ces nodules parce qu'on n'est pas très inquiet. Et puis ces nodules, ils vont doubler de volume en un an. Il y en a d'autres qui vont apparaître. Là aussi, ça peut être une notion qui va conduire à l'acte chirurgical. L'aspect cosmétique des choses peut rentrer en ligne de compte. On conçoit très bien que la dame que je vous ai présentée tout à l'heure, ça n'avait pas eu l'air de beaucoup la gêner puisque ce n'est pas venu comme ça en un mois, mais en plusieurs années. Mais on peut concevoir que ça gêne sur le plan cosmétique. Et puis en dernier, donc, indiscutablement, qu'est-ce qui fait qu'on va opérer ces gens? C'est la suspicion de malignité. Et en fait, tous les examens qu'on va vous faire, échographiques notamment, puisque c'est l'examen clé, comme l'a dit Mme Boinpinot, ça va être de rechercher des signes qui peuvent évoquer la malignité. Cette malignité, M. Maréchaux vous en a parlé, elle n'est pas très fréquente. C'est entre 5 et 10% des nodules, couramment. Mais c'est quand même un chiffre relativement important eu égard au nombre de nodules dans la population générale. Donc, le problème va être de trier ces patients et de savoir quel nodule est dangereux, quel nodule on peut surveiller et pendant combien de temps. Parce qu'il y a une notion aussi de temps qui intervient. C'est vrai que plus le temps passe, plus le risque de dégénérescence de ces nodules est important. Et on connaît bien ces gros goitres multinodulaires de la personne âgée qui évoluent des fois depuis 20 ou 30 ans et qui donnent lieu à des cancers qui sont de mauvais pronostics par rapport aux cancers habituels. Alors, pourquoi opérer ? Donc, essentiellement la malignité, vous l'avez compris. Cette malignité, elle va pouvoir se repérer sur des éléments cliniques. On va pouvoir palper des ganglions au niveau du cou, par exemple, qui vont alerter sur une pathologie maligne. On va pouvoir palper la thyroïde et ses nodules. Ils vont être particulièrement durs, peut-être éventuellement fixés au plan musculaire, et donc être particulièrement inquiétants par rapport à un nodule qui va être tout mou et qui sera plutôt de nature bénigne. L'échographie, c'est l'examen clé. Marie-Hélène vous en a parlé. Et maintenant, c'est l'examen sur lequel on se guide de façon préférentielle. Il y a des critères très positifs de malignité qui font poser l'indication opératoire, les microcalcifications, une hypervascularisation anarchique centrale du nodule, et puis des limites mal définies et d'autres. Et puis, on complétera cette échographie par la cytoponction, comme elle vous l'a dit, qui peut nous apporter des éléments positifs en faveur de la malignité et donc nous conduire à proposer une intervention chirurgicale. Alors, l'intervention elle-même, la durée d'hospitalisation actuellement, alors qu'elle était d'une semaine il y a encore une petite dizaine d'années, a été écourtée de plus en plus. Et actuellement, les gens passent deux nuits à l'hôpital. Donc il y a deux journées. Ils rentrent la veille au soir, vers 17h, sont opérés le lendemain matin et sortent le lendemain en début d'après-midi. Donc une hospitalisation, somme toute, assez courte, qui ne va pas jusqu'à l'ambulatoire pour des raisons de sécurité, parce que ces interventions peuvent donner lieu à des complications, on va y revenir tout à l'heure, et notamment, comme toute intervention chirurgicale, à des hématomes. Et on peut concevoir qu'un hématome au niveau du cou va être rapidement compressif sur la trachée et donner donc des éléments extrêmement graves, voire menacer la vie. Et donc, ces hématomes, quand ils surviennent, et c'est assez rare, c'est moins de 1% des interventions, mais quand ils surviennent habituellement dans les premières heures, et notamment dans les 12 premières heures d'après l'intervention. Et donc, on préfère que les gens soient hospitalisés de façon à pouvoir intervenir et qu'il n'y ait pas de problème ni de risque vital. Alors, les particularités de cette intervention, c'est que c'est une chirurgie minutieuse. Vous avez vu que l'hospitalisation est courte, ce n'est pas un geste très choquant sur le plan général, mais c'est minutieux, pourquoi ? Parce qu'en arrière de la thyroïde, passe notamment, vous voyez ici schématisé en vert, des nerfs qui commandent les cordes vocales. Ces nerfs donc sont collés à la glande, à la face postérieure de la glande, et il va falloir les repérer, les décoller, ces nerfs de la glande, de façon à enlever la glande en toute sécurité. Donc ces nerfs sont rarement traumatisés, mais ça peut arriver dans l'ordre de 5% des cas environ. Et ça peut donner à ce moment-là des modifications de la voix, quand c'est que d'un côté, mais ça peut être un peu plus grave, gêner la respiration quand c'est bilatéral. Donc c'est un élément clé de l'intervention, c'est de respecter ces nerfs. Et on peut comprendre que ça peut être particulièrement difficile quand la glande est très volumineuse, elle comprime ses nerfs, elle s'appuie sur ses nerfs. Et donc le repérage va en être beaucoup plus difficile. Le deuxième élément pour lequel cette chirurgie est minutieuse, c'est à cause des petites glandes qui s'appellent des parathyroïdes, qui sont schématisées en jaune, là, si je retrouve ma flèche, là, voilà. Voilà, vous avez quatre petites glandes ici à la face postérieure de la thyroïde, même endroit que passent les nerfs. Ces petites glandes, donc, qui sont au nombre de quatre, deux de chaque côté, régulent le calcium dans le sang par l'intermédiaire d'une hormone qui s'appelle la parathormone, peu importe. Mais ces glandes, bon, elles sont innocentes hein, dans tout ce problème-là, et il convient de les respecter. Il va falloir les repérer, bien entendu, et elles font quelques millimètres de diamètre. Elles ne sont pas très grosses, hein, elles sont de la taille d'un grain de riz, schématiquement. Et donc, il va falloir les repérer, elles ont une couleur caractéristique, les repousser, les décoller de la thyroïde et surtout ne pas les enlever en même temps que la thyroïde. Donc on doit les laisser en place et laisser en place aussi leur vascularisation pour qu'elles soient fonctionnelles et que le métabolisme du calcium soit assuré. Quand ces glandes sont traumatisées, ça peut donner une baisse de calcium dans le sang et on peut être amené à donner du calcium après l'opération de façon habituellement transitoire le temps que ces glandes récupèrent du traumatisme un peu qu'elles ont subi pendant l'intervention. Cette intervention s'accompagne d'un protocole antalgique qui est commencé pendant l'opération elle-même. C'est pendant que les gens dorment, on commence un protocole antalgique de façon à devancer la douleur et à la diminuer donc en post-opératoire immédiat. Ce protocole est continué en post-opératoire, au moins pendant les 6 premières heures. Et globalement, on peut dire que c'est une chirurgie qui donne une douleur égale à peu près à une angine. Bien qu'on puisse dire effectivement que la douleur, c'est très subjectif. Il y a des gens qui souffrent beaucoup plus que d'autres, d'autres pour lesquels qui ne ressentent strictement rien. La fermeture cutanée, habituellement, est très simple. Les gens sortent le lendemain, je vous l'ai dit, donc il faut un minimum de soins. Donc en général, il s'agit de fils internes, rien n'est visible. Et éventuellement, on met une colle sur la peau, tout simplement pour fermer. Donc, vous voyez ici en bas, un cliché le lendemain de l'intervention, donc avec cette colle qui est un peu brillante. Et puis ici, une cicatrice vue de très près un mois après l'intervention. Un petit peu rouge encore parce qu'une cicatrice, hein, ça fonctionne, ça se remanie pendant quelques temps et puis ça finira par s'effacer relativement complètement grâce à des massages. Je vais y revenir. Les suites immédiates de cette opération, très rapidement, une ou deux heures en salle de réveil, le temps que les gens soient bien réveillés avant de remonter dans leur chambre. Le traitement antalgique, je vous en ai parlé, débuté pendant l'intervention elle-même de façon à devancer la douleur et à diminuer la douleur post-opératoire. La réalimentation, en général, est assez rapide, puisque les gens sortent le lendemain. Ils peuvent boire le soir de l'opération et le lendemain, ils mangent normalement, ils prennent leur petit déjeuner et le déjeuner. Au premier jour... Ah. On va peut-être aller l'aider. Alors.
La chirurgie de la thyroïde.
Je vais finir rapidement avant qu'il y ait d'autres hécatombes dans la salle. Donc, le lendemain de l'intervention, le lendemain matin, il y a un contrôle des cordes vocales qui est fait, qui est un examen ORL extrêmement simple. On regarde vos cordes vocales bouger avec un petit miroir, ce qui permet de s'assurer qu'il n'y a pas de complications au niveau des nerfs dont on a parlé tout à l'heure. On va doser le calcium pour vérifier que les parathyroïdes fonctionnent bien. Et avec ces deux résultats positifs, les gens vont pouvoir sortir en toute sécurité. Donc la sortie à G1, je vous l'ai dit. Le traitement substitutif est entamé immédiatement après l'opération. C'est-à-dire que si on enlève toute la thyroïde, eh bien, on donnera le médicament qui remplace cette thyroïde, les hormones thyroïdiennes, qui est à prendre très rapidement après l'intervention pour éviter une hypothyroïdie post-opératoire trop importante. On recommande des massages de la cicatrice. Ça, c'est extrêmement important pour l'aspect cosmétique des choses. Souvent, il s'agit de femmes et de femmes jeunes. Donc, il faut bien masser la cicatrice. Dans le service, on a un petit film qui vous montre un petit peu comment il faut faire. Et c'est extrêmement important de masser sa cicatrice de façon à ce que les réactions inflammatoires, des petits fils en dessous qui vont se résorber, soient le moins important possible. Et puis, en général, on revoit les gens un mois après l'opération avec des dosages hormonaux de façon à vérifier l'adaptation d'un éventuel traitement substitutif. Et puis, le relais est pris après par le médecin traitant, bien entendu. Voilà, je vous remercie de votre attention.
Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est la journée qui veut ça. Hein. On n'est pas le 12-12-12, c'est passé. On n'est pas le 21 non plus. Bon, merci beaucoup en tout cas de vos interventions. Tout le monde va bien ? Première chose, il fait un peu chaud. Hein.
Oui.
Donc on a aéré un petit peu.
Oui, chaud.
Voilà. Alors, je vous donnerai des nouvelles du monsieur très rapidement. Vous allez pouvoir poser vos questions. Vous connaissez le principe, je vais vous demander de lever la main. Vous pouvez me donner aussi le papier si jamais vous voulez que je pose moi la question. On démarre quand vous voulez. Et il faut toujours un premier. Hein. On y va. Je vais vous tenir le micro, madame.
Je voudrais savoir s'il y a une différence entre les médicaments génériques et le levothyrox ordinaire.
Alors, oui, Marie-Hélène, on va te laisser parler.
Oui, en ce qui concerne le levothyrox, c'est préférable. C'est pas préférable. Il ne faut prendre que la molécule non substituable de levothyrox parce que l'équilibre hormonal n'est pas le même avec le générique, d'autant plus qu'il existe maintenant plusieurs génériques, et la molécule non substituable. Et que lorsqu'on donne du levothyrox, on a un objectif thérapeutique qu'on va définir avec le taux de TSH, comme je vous l'ai dit, et que ce taux de TSH ne reflétera pas toujours la réalité si vous prenez tantôt un générique, tantôt la molécule non substituable. Voilà.
Voilà, c'est pas dogmatique du tout, mais c'est que dans ce cas-là, le générique ne remplit pas son rôle et nous pose des problèmes d'équilibration. C'est pour ça qu'on est amené à ne pas le recommander.
Merci, madame, pour cette question. Est-ce qu'on peut avoir des nouvelles de notre patient ? Ça va bien ?
Oui, ça va bien. Oui.
Bon, merci, vous nous rassurez.
Un malaise vagal.
D'accord.
Rien de grave.
C'est pas lié aux photos, c'est pas lié à tout ça ?
Ben, si ? Peut-être qu'il a été un peu choqué par les photos.
D'accord.
Il fait chaud ici.
D'accord. Donc, bon, si vous vous sentez pas bien, vous prévenez, il y a ce qu'il faut. Hein. On fait des soirées spéciales avec des...
Remplir le questionnaire des
bon, l'essentiel, c'est qu'il aille bien. Une question ? Ok, j'arrive vers vous. Ce que je vous demanderais, c'est d'anticiper un petit peu, vous levez la main en même temps, comme ça on saura où se rendre assez rapidement pour ne pas perdre trop de temps.
J'aurais aimé savoir s'il est possible d'avoir des symptômes édipo et d'hyper.
Les deux en même temps ? Alors attention, il faut bien répondre devant un micro, tout simplement parce que la séance de ce soir, comme toutes les pôles InfoSanté, sont enregistrées pour que vous puissiez réécouter tout cela sur Internet. Donc c'est pour ça que je vous demanderai de bien parler devant les micros.
Tout est possible en médecine. Hein. Vous avez des personnes qui ont une hyperthyroïdie et qui se plaignent de frilosité, par exemple. Alors évidemment, ce sont des cas très particuliers. C'est pas les plus fréquents, mais ça peut arriver. On voit assez régulièrement des confrères qui dosent la TSH, par exemple, que ce soit le médecin généraliste ou que ce soit le cardiologue, en se disant, tiens, là, il y a tel ou tel symptôme, je dose la TSH parce que je pense que cette personne a une hypothyroïdie et les résultats vont dans l'autre sens. Donc, ça peut arriver qu'on ait des symptômes dissociés par rapport à la réalité. Et certaines personnes combinent les deux. Je vais même aller plus loin. C'est d'ailleurs pas les cas les plus faciles. On a parlé de la maladie de Basedo, qui est l'hyperthyroïdie. Bon, l'hyperthyroïdie, classiquement, comme je vous ai dit tout à l'heure, on perd du poids alors qu'on a un appétit exacerbé. Donc, une situation paradoxale. Eh bien, il y a des personnes qui ont une hyperthyroïdie, une maladie de Basedo, et qui, malheureusement, au lieu de perdre du poids, prennent du poids. Hein? Ça peut arriver aussi, ça. Mais bon, alors c'est 3% des cas, 5% maximum, mais il peut y avoir des situations, inhabituelles qui sortent des sentiers battus. Pour compléter cette réponse, on voit aussi des personnes qui ont, quand on voit les résultats des dosages hormonaux, ont des résultats très anormaux. Par exemple, un taux de TSH très élevé, un taux de T4 très bas. On s'attend à ce que cette personne présente une multiplicité de symptômes dont j'ai parlé tout à l'heure, la chute des cheveux, la constipation, la frilosité, la prise de poids. Et on a beau les examiner, on ne trouve pas grand-chose. Ils n'ont quasiment aucun signe. Et inversement, il y a des personnes qui ont des anomalies bien moindres, avec un taux de TSH à peine élevé, un taux de T4 très peu diminué, et qui ont des tas de symptômes. Même chose pour l'hyperthyroïdie. Il y a parfois une dissociation importante entre l'intensité des signes cliniques et la profondeur des anomalies biologiques.
Merci. Question devant. Oui, c'est vous devant. On va vous tenir le micro, monsieur.
Ah, merci. Je voulais savoir s'il y avait un pourcentage d'hommes et de femmes atteints par cette maladie.
Alors, pour la thyroïde en particulier, et pour beaucoup de glandes endocrines en général, les femmes sont beaucoup plus affectées par les maladies thyroïdiennes que les hommes. Les hommes ont des maladies thyroïdiennes identiques, hein, mais statistiquement, il y a plus de femmes que d'hommes. Ça, c'est indiscutable. Ne me demandez pas pourquoi. Pardon ?
Le chiffre.
Ah, le combien ? Oui. Ah, alors, par exemple, l'hyperthyroïdie, oui, c'est ça. Moi, je dirais sur 10 cas de maladie de Basedo, c'est 8 femmes et 2 hommes. Ouais.
Excuse-moi, j'avais quelque chose à ajouter.
Non, vas-y.
Alors, pour la pathologie nodulaire, c'est à peu près pareil, c'est 80% de femmes, 20% d'hommes. Mais ce qu'il faut savoir, puisqu'on est toujours dans la recherche de la malignité, le pourcentage de malignité est plus important chez l'homme. Donc pour nous, le sexe masculin, dans pathologie nodulaire, représente un facteur de risque supplémentaire. C'est de l'ordre de 80%, 20%.
Oui. En dehors du sexe, est-ce qu'il existe d'autres facteurs de risque ?
De malignité ?
De problèmes thyroïdiens.
Ah, de problèmes thyroïdiens en général.
Par exemple, les facteurs de risque. Pour parler des dérèglements hormonaux de l'hyper et de l'hypothyroïdie, il y a un facteur qui est indiscutable, notamment pour l'hyperthyroïdie, c'est le stress. Les personnes qui ont un événement de vie extrêmement affectant, c'est un starter important, ce n'est pas la cause, mais c'est un starter favorisé important pour que la thyroïde se dérègle. Hein. Et très souvent, quand une personne débute une maladie de Basedo, on se rend compte que c'est une personne qui, par exemple, vient de changer de profession ou de niveau professionnel, arriver à des responsabilités beaucoup plus importantes, qui la stressent, et puis boum, la thyroïde s'en mêle. Quelqu'un qui change de région, qui arrive d'une région où elle se plaisait dans une région où elle ne se plaît pas, ça peut être un facteur favorisant. Le harcèlement du voisin, etc. Voilà des facteurs qu'on voit pour l'hyperthyroïdie plus que l'hypo. Dans un domaine complètement différent, par rapport à l'hyperthyroïdie, un facteur, je dirais, favorisant le fait que ça se passe moins bien, pour l'hyperthyroïdie, la maladie de Basedo, c'est le tabagisme. Le tabagisme amplifie les choses et amplifie, par exemple, le risque, quand on a une maladie de base d'eau, d'avoir une maladie de base d'eau avec des problèmes oculaires plus préoccupants. Bon, il y a d'autres exemples. Oui. L'hypothyroïdie, pas trop le tabagisme, mais plus le stress. Et puis alors, il y a aussi des facteurs médicamenteux. Hein. Il y a des facteurs médicamenteux qui peuvent complètement dérégler la thyroïde. Vous avez, je l'ai évoqué tout à l'heure, il y a des médicaments qui sont très riches en iode et qui peuvent provoquer un dérèglement sévère de la thyroïde, soit dans le sens hypo, soit dans le sens hyper. Il y a en particulier un médicament très fortement dosé en iode qui est très utile dans certains cas de maladies cardiaques sévères, qui s'appelle la cordarone, qui parfois provoque des soucis thyroïdiens extrêmement importants, soit dans le sens hyper, soit dans le sens hypo. Il y a même des situations d'hyperthyroïdie qu'on n'arrive pas à contrôler, où on demande au professeur Krems d'enlever l'ensemble de la glande pour pouvoir régler le problème et pouvoir permettre au cardiologue de continuer à prescrire des médicaments dont le patient a absolument besoin sur le plan cardiologique. Dans un autre domaine, par exemple, si vous allez dans le domaine de la psychiatrie, il y a certains médicaments utilisés en psychiatrie qui contiennent, par exemple, du lithium, qui peuvent provoquer des dérèglements thyroïdiens. Il y a des médicaments aussi qu'on utilise pour traiter les hépatites chroniques, hein, des médicaments à base d'interférons qui peuvent provoquer des dérèglements hyper- ou hypothyroïdiens importants.
Merci. Il y a plein de questions encore. Je voudrais juste qu'on donne la parole au docteur Mérine. Oui. Donc on va lui donner un micro. Je voudrais savoir votre rôle, vous, en tant que médecin généraliste, justement en amont, j'imagine. Oui, le micro fonctionne.
Il fonctionne ?
Oui.
Mes confrères ont déjà tout dit. Moi, c'est pas compliqué pour moi. Mon rôle, c'est de dépister et puis d'orienter. Donc dépister, moi, c'est en fonction des antécédents familiaux, la palpation de la thyroïde. L'examen clinique quand le patient vient me voir. Ensuite, je fais un dosage de la TSH, je prescris une échographie donc de la thyroïde. En fonction de ça, je poursuis les investigations. J'oriente vers mes confrères. Des fois, je traite seul quand c'est vraiment simple. Si c'est une thyroïdite lymphocytaire atrophiante ou si je fais juste mettre un petit peu de lévothyrox, ça, il n'y a pas de problème. Ensuite, je surveille le traitement mis en place, qu'il soit médical, chirurgical ou autre. La difficulté que moi je rencontre, c'est d'équilibrer le traitement hormonal. Parce que j'ai une très grande discordance entre les chiffres de TSH et les signes cliniques. On a des TSH qui vont être normales, il va y avoir une asthénie, il va y avoir des signes d'hypothyroïdie ou d'hyper, il va y avoir une TSH soit très basse, soit très haute, et là j'aurai peu de variations cliniques. Donc voilà, c'est l'équilibre. Je dis que moi, je pense qu'il faut traiter avant tout le patient qui est en face en fonction de son ressenti. Quand j'ai des TSH un petit peu décalés, j'ai tendance à les mettre sous traitement. Bon, je ne sais pas si c'est l'avis de M. Maréchaux. Quand j'ai une TSH qui va être à 5-6 et que la clinique est parlante, si l'état cardiaque me le permet, si le cardiologue est d'accord, par exemple pour les sujets âgés, j'ai tendance à mettre des petites doses de lévothyrox.
Oui, alors, moi, je voudrais dire deux choses par rapport à ce que vous avez. Tout d'abord, le premier aspect, c'est-à-dire je dose à TSH, etc. Le médecin généraliste, c'est le médecin qui est en première ligne pour faire les examens de dépistage. Or, vous l'avez vu tout à l'heure, quelqu'un qui a un dérèglement de la thyroïde, il se plaint de quoi ? Docteur, je suis un peu fatigué. Docteur, je suis un peu constipé. Docteur, je suis un peu déprimé. Je dors mal, etc. Ce sont des symptômes de tous les jours pour un médecin généraliste. Donc, dès l'instant où un patient se plaint d'un état de fatigue, d'un état un peu dépressif, etc., eh bien, il a le réflexe de doser la TSH.
Il faut rester systématique.
Voilà. Alors, à partir de là, le dosage de la TSH fait partie, dans les milieux biologiques courants, des 5 dosages les plus fréquemment effectués dans les laboratoires de biologie, à côté de l'hémogramme, du calcium, de la glycémie ou du cholestérol. La TSH, c'est vraiment un examen qui se fait très, très souvent à la demande de... Et alors après, il faut savoir faire le tri des résultats qui reviennent franchement anormaux, donc là c'est relativement simple, et puis un peu anormaux, mais pas tant que ça, et c'est vrai qu'à ce point de vue-là, vous avez un rôle extrêmement important. Donc ça, c'est le premier côté de votre intervention. Le deuxième est compliqué, parce que
Quand on dose la TSH, et donc on le fait souvent, parce qu'il y a plein d'autres gens qui disent « je suis fatigué, je m'en sors pas, je suis déprimé, je dors pas bien ou je dors trop », et on dose la TSH. Et alors là, je peux vous dire que le nombre de personnes, en particulier les personnes assez âgées, qui ont un taux de TSH un tout petit peu au-dessus de la normale, c'est très fréquent, un taux de TSH 5 ou 6. Une prise de poids aussi, par exemple. Et ça, je peux vous dire que le nombre de situations où ce petit décalage de la TSH, qui est un problème fréquent, est seul responsable de la fatigue ou de la prise de poids, est une situation minoritaire. Autrement dit, dans ces cas-là, bien sûr, on va prescrire un peu d'hormones thyroïdiennes pour normaliser cette anomalie, mais en même temps, il faut vraiment faire une évaluation complète de la personne pour se dire... Il n'y a rien à faire, cette personne est fatiguée, parce qu'il y a sûrement autre chose. Parce que sinon, ça vous revient en boomerang. La personne, 3 mois plus tard, elle vient vous voir. « Docteur, j'ai pris du lévothyrox. Excusez-moi, j'ai prononcé un mot commercial. Voilà, mes résultats sont normaux, mais je suis toujours fatigué. Ou je n'ai pas perdu de poids. » Et ça vous revient dans la figure très rapidement.
Merci. On va prendre, il y a plein de questions. Je vais vous demander de venir, s'il vous plaît. Bien. Parce qu'on va avoir besoin de la traductrice, c'est pour cela. Allez-y.
D'accord, ok. D'accord, merci. C'est bon ? Oui, j'avais une question. L'évolution des personnes qui souffrent de thyroïde, est-ce qu'on voit de plus en plus de gens qui souffrent de thyroïde ou de moins en moins ? J'aurais voulu une photo générale du contexte.
Merci.
Il y a beaucoup plus de personnes qui ont des problèmes thyroïdiens qu'il y a 10 ans. Mais si vous voulez, il y a un biais de recrutement évident. C'est que maintenant, on fait une échographie du cou pour un oui ou pour un non. Les appareils d'échographie sont beaucoup plus précis, beaucoup plus performants. C'est-à-dire qu'on voit des choses qu'on ne voyait pas avant. Des tout petits trucs à la limite les dosages hormonaux sont beaucoup plus démocratisés, donc on fait beaucoup plus facilement des dosages de TSH. Donc c'est vrai que globalement, il y a plus de maladies thyroïdiennes, mais il y a des tas de raisons pour qu'on trouve des choses qu'on ne trouvait pas avant mais, et qui étaient pourtant sûrement présentes. Alors, ceci étant dit, mais je pense que Jean-Louis est mieux placé que moi pour le dire, je crois que quand même, d'un point de vue épidémiologique, il y a peut-être une petite tendance à la majoration de certaines situations de cancer de la thyroïde. Enfin, c'est modeste.
Bon, il y a une question, je crois.
C'est vrai que le problème du cancer de la thyroïde est un peu difficile parce que finalement, on s'est aperçu au cours des études pratiquées il y a de nombreuses années qu'il y a un certain nombre de ces petits cancers de la thyroïde qui n'évoluaient pas. Autrement dit, quand il y a 20 ou 30 ans, on ne dépistait pas ces cancers, ben, finalement, ils ne donnaient pas de problème particulier. Aujourd'hui, il y a un effet dépistage manifeste grâce à tous les examens dont on a parlé et on va les trouver, ces petits cancers. Le problème, c'est qu'on ne sait pas comment ils vont évoluer. Est-ce qu'ils vont ne jamais évoluer, jamais donner d'ennui aux gens ? Est-ce qu'ils vont évoluer sur un mode de métastase ou comme un cancer classique ? Ça, on ne peut pas le prédire. Donc, il y a un effet dépistage. C'est sûr qu'on voit plus de nodules qu'on en voyait avant, mais... probablement, les gens avaient ces nodules avant, mais n'étaient pas dépistés, n'étaient pas traités.
Un autre examen qu'on fait beaucoup dans la pathologie cardiovasculaire, on fait beaucoup d'échos Doppler des vaisseaux du cou. Et lors de ces échos Doppler, on détecte des nodules de la thyroïde et le patient ne se plaignait de rien. Moi, ça m'est arrivé pas mal de fois.
D'accord.
De toute façon, c'est un problème global en médecine. Il y a eu une explosion au cours des 15 dernières années de la pathologie de l'imagerie. C'est-à-dire que les gens se font faire un scanner pour ceci, pour cela, et puis pouf, on trouve une petite boule dans un coin, sur un rein ou sur une surrénale ou dans le foie. Ce n'était pas du tout pour ça qu'on faisait l'examen.
Une dame au fond, une question. Ensuite, vous, madame.
Bonjour. Quand un malade a été opéré d'un cancer, y a-t-il un suivi ? Si oui, à quelle fréquence et pendant combien de temps ? Merci.
Oui, bien sûr, il y a un suivi, et un suivi qui doit être assez long, puisque... sont des cancers d'évolution assez lente. Et le suivi est essentiellement pratiqué par Marie-Hélène Boimpineau en médecine nucléaire. Donc je vais la laisser s'exprimer là-dessus.
Alors, je pense que quand vous parlez du cancer, il y a différents types de cancers, mais le cancer le plus fréquent de la thyroïde, c'est le cancer thyroïdien différencié. Et ce cancer thyroïdien différencié, effectivement, il a un traitement, il a un suivi. Le premier traitement, c'est la chirurgie, c'est la thyroïdectomie totale. Et il est clair qu'au-delà d'une certaine taille, et en pratique, c'est au-dessus de 1 cm, le geste chirurgical doit être complété par un traitement qui est le traitement par iode 131, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ce traitement par iode 131, il a pour objectif de détruire en fait le petit reliquat de tissu normal, je dis bien, que le chirurgien est obligé de laisser pour protéger les glandes parathyroïdes dont il vous a parlé tout à l'heure, qui agissent sur le métabolisme du calcium, ou alors pour protéger le nerf récurrent qui agit sur les cordes vocales et donc sur la voix. Donc ce l'iode 131 a pour but d'aller se fixer, ça se présente sous forme d'une simple gélule qu'on demande au patient d'avaler. La seule chose, c'est comme c'est très radioactif, nous on est obligé de le garder dans nos chambres, pour qu'il ait, les chambres que je vous ai montrées, pour qu'il élimine la radioactivité et n'irradie pas son entourage. Alors une fois que ce reliquat est détruit, le patient doit être surveillé effectivement par des prises de sang, par la thyroglobuline, donc le marqueur dont je vous ai parlé, par des échographies. Et en fait, le suivi se fait à peu près... Disons que le suivi sera à vie le dosage de la thyroglobuline, de toute façon. Et le suivi plus régulier des aires ganglionnaires cervicales, notamment, ça, c'est à peu près une quinzaine d'années. Voilà.
Merci. Question.
Je voudrais compléter par un petit point qui est très fréquent. C'est que, le docteur Moinpinot vous a parlé, de la formule la plus classique qui représente bien la situation. Mais il y a également une situation très fréquente et qu'on évoque toutes les semaines lorsqu'on fait nos réunions communes. C'est que le professeur Krems, s'il va opérer quelqu'un de la thyroïde et il va enlever... Parfois, il a opéré un nodule qui fait 2 cm du côté droit de la thyroïde. Et puis, comme souvent, il enlève une grande totalité de la thyroïde, on va trouver dans la thyroïde, à côté, ce n'est pas pour ça qu'on opérait, un petit cancer qui fait 2 mm. Bon, ces cancers de 2 mm, eux, on ne fait pas tout le suivi métabolique et le traitement complémentaire. Ils ont été opérés, c'est un petit cancer. On considère que l'affaire est définitivement réglée. Les malades sont placés sous hormones thyroïdiennes pour substituer leur hypothyroïdie et c'est terminé pour toujours.
Ok. J'ai encore au moins 6 questions en attente. On y va tout de suite.
Oui, je voudrais savoir les méfaits, les inconvénients de thyralide, les personnes qui prennent thyralide, lithium sur thyroïde, s'il vous plaît. Vous venez de dire, mais je n'ai pas bien compris.
Le problème du lithium. Ah, le lithium.
Thyralite.
Voilà. Le lithium, donc c'est un médicament très utilisé par les psychiatres pour soigner les psychoses maniaco-dépressives et qui parfois sont extrêmement précieux pour améliorer les symptômes de ces gens-là. Et la situation qu'on voit le plus souvent, c'est soit un gonflement global de la glande thyroïde, que je vous en ai montré une photo tout à l'heure, mais qui n'est pas suffisamment... important pour gêner la voix, pour gêner la respiration, etc. Donc il y a un goitre diffus avec une fonction thyroïdienne, des résultats de dosages hormonaux qui sont normaux. Donc on se contente de surveiller. Et puis à un degré de plus, ce qu'on peut voir, c'est l'apparition d'une hypothyroïdie. Bon, lorsqu'apparaît une hypothyroïdie, en plus du goitre, eh bien on se contente dans ces cas-là de prescrire des hormones thyroïdiennes pour normaliser le taux des hormones et bien entendu continuer à prescrire ce médicament qui est très utile. Il n'est pas question, au nom du fait que la thyroïde se dérègle un petit peu, de dire il faut arrêter de prendre ce médicament parce que sinon on va se retrouver dans les ennuis de la maladie psychiatrique qui n'est plus contrôlée. Donc la situation du lithium est généralement une situation assez simple à régler parce qu'on continue le traitement et on rajoute un peu d'hormones thyroïdiennes quand c'est nécessaire.
Alors une question ici.
J'aimerais savoir quelle est la règle en matière de freination, quelle est la durée imposée après un cancer de la thyroïde.
En matière de cancer thyroïdien, lorsqu'on donne un traitement hormonal thyroïdien, on freine, c'est-à-dire on accepte une TSH basse jusqu'à ce que le patient soit mis en rémission complète. C'est-à-dire, en l'occurrence, si dans notre contrôle, 6 mois après ce traitement, il n'y a plus de tissu thyroïdien, ce qui s'exprime par une thyroglobuline négative, à ce moment-là, on diminue les doses de lévothyrox pour ne plus être freinateur et on accepte que la TSH soit dans la partie basse de la normale, de façon à ne pas avoir d'effet négatif en fait, sur le système osseux, sur le système cardiovasculaire. Donc dès que le patient est mis en rémission complète, on accepte une TSH normale avec différents seuils, bien sûr, différentes valeurs, selon le pronostic initial.
Alors, une question ici. Attendez, s'il vous plaît, juste une seconde.
Excusez-moi, je n'ai pas vu le début, je suis arrivée un petit peu en retard, donc peut-être vous l'avez dit. Je vais une question concernant l'hyperthyroïdie et l'hypo, en fait, voilà, enfin l'hyper, l'hypo, un peu sur les deux. Est-ce que c'est génétique, en fait? Est-ce que ça peut se transmettre de génération en génération à son enfant?
Alors je vais compléter juste avec tout un tas de questions que j'avais effectivement entre les mains et qui concernent le même sujet. On m'a demandé si c'était héréditaire effectivement et si on avait des difficultés à tomber enceinte, s'il y avait des risques de le transmettre au fœtus.
Ouais, c'est-à-dire que là, il y a beaucoup de questions. Il y a beaucoup de questions en une seule. En ce qui concerne l'hyper et l'hypothyroïdie, la plupart du temps, ce ne sont pas des maladies génétiquement transmises. En revanche, ce qui peut se transmettre, c'est une prédisposition, j'ai bien une prédisposition familiale, à développer une maladie auto-immune. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'organisme se retourne contre soi, contre son propre organe. Ça peut être la thyroïde, on fait de l'hyper ou de l'hypothyroïdie, ça peut être le pancréas, on fait du diabète sucré, ça peut être les cellules de l'estomac, on fait une maladie de Birmer. Donc il peut y avoir la transmission d'une prédisposition à développer une maladie auto-immune. Mais il n'y a pas une transmission directe. Bon. Après, tout dépend du type de maladie thyroïdienne qu'on... par exemple, vous avez parfois des enfants qui naissent avec une absence de thyroïde. Hein, le docteur Boinpineau l'a évoqué tout à l'heure. On est sans thyroïde, mais quand on est sans thyroïde, ce n'est pas une transmission d'une maladie de la mère à l'enfant. C'est-à-dire que la mère n'est pas affectée de ce problème-là. C'est une maladie congénitale, mais ce n'est pas une maladie héréditaire. Bon. Il y a certaines formes, mais très rares, de cancer de la thyroïde qui peuvent être déterminées de façon héréditaire. Mais c'est rare. Bon, je pense qu'on ne va pas trop rentrer dans les détails de cette question. Mais si vous voulez, on ne peut pas répondre en une seule phrase à votre question parce que tout dépend du type de problème thyroïdien auquel on a affaire.
Alors, je voudrais ajouter, effectivement, c'est assez rare, mais c'est certainement sous-estimé. Enfin, quand on interroge les gens qui ont des problèmes thyroïdiens, on retrouve souvent dans des familles des problèmes identiques, soit des cancers, soit des hyperthyroïdies. Et donc, on est un peu obligé de penser, malgré la fréquence de ces pathologies, qu'il y a un caractère familial. Et du reste, les chercheurs qui se penchent beaucoup sur ces questions de génétique, de plus en plus actuellement, vous savez que c'est très important, il y a des découvertes de mutations sur des gènes qui sont découvertes très, très fréquemment, de plus en plus fréquemment. Et ça nous amène à décrire des nouvelles maladies génétiques transmissibles. Donc je dirais que ça reste rare, il ne faut pas se focaliser là-dessus, mais c'est certainement sous-estimé et c'est sûrement une question à poser et un facteur de risque à bien connaître quand on interroge un patient qui a un problème de thyroïde, savoir si dans la famille il y a d'autres problèmes, et voir s'ils sont liés et ça peut avoir des conséquences sur le traitement de ces patients.
Une autre question, que se passe-t-il au niveau du dosage pendant une grossesse?
Bon, on va parler du dosage de l'hormone thyroïdienne en cas d'hypothyroïdie. Voilà, donc chez une femme enceinte, d'abord, une femme enceinte qui prend une femme non enceinte, mais en âge de procréer, qui a un projet de grossesse, déjà, il faut l'informer à l'avance des précautions à prendre par rapport à une grossesse. Donc, la précaution à prendre, c'est de lui dire que dès l'instant où elle sera enceinte, ses besoins en hormones thyroïdiennes vont augmenter de 20 à 30%. Autrement dit, le lévothyrox, enfin, l'L-thyroxine, bien entendu, est parfaitement utilisable chez une femme enceinte. Et non seulement il est utilisable, mais il faut augmenter systématiquement la dose de 20 à 30% dès l'instant où le diagnostic de grossesse est fait. Et à partir du moment où la femme se sent enceinte, elle augmente sa dose de lévothyrox, elle va voir son médecin qui doit lui prescrire un dosage de l'hormone thyroïdienne un mois plus tard pour vérifier que le changement systématique ainsi effectué donne le bon résultat. Et ensuite, après, on surveille régulièrement le taux de TSH pendant toute la grossesse. Et une fois que cette patiente a accouché, eh bien, généralement, elle devra redescendre de 20 à 30% pour revenir aux doses d'hormones thyroïdiennes qu'elle avait avant la grossesse. Donc ça, c'est une question d'information et d'éducation de la patiente en amont de la grossesse.
Avant de vous redonner la parole, parce que je sais qu'il y a... Attendez, juste une seconde. Et on me pose aussi la question depuis tout à l'heure, et elle est plutôt intéressante. Est-ce qu'il y a des origines géographiques ? Est-ce qu'il y a plus des endroits particuliers où il y a plus de problèmes de thyroïde ?
Alors, ça dépend des problèmes thyroïdiens. Les problèmes de goitre, c'est-à-dire d'hypertrophie et de pathologie nodulaire, sont plutôt dans les régions... déficitaire en iode, c'est ce qui se dit de façon théorique. C'est-à-dire que c'est les zones montagneuses, c'est le goitre des montagnes qu'on en entendait parler. En fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est que les nodules surviennent un peu de façon tout à fait égale dans n'importe quelle région. Les régions près des mers sont plutôt des régions plutôt plus riches en iode, et malgré ça, il y a quand même des pathologies nodulaires. Donc, il n'y a pas véritablement de lien géographique, je dirais, qu'on peut retenir quant à la fréquence de ces pathologies. Voilà ce qu'on peut peut-être répondre. Tu peux peut-être compléter.
Oui, bon, il y a quelques différences géographiques. Par exemple, aux États-Unis, l'apport en iode général de la population est plus équilibré, plus important que par exemple en France. Donc il y a peut-être un petit peu moins de pathologies nodulaires aux États-Unis qu'en France. Puis comme l'a dit le professeur Krems tout à l'heure, il y a des zones du monde qui sont très carencées en iode. Si vous allez par exemple dans le Sahel, eh bien, vous allez dans les villages et vous rendez compte que plus de 10%, c'est la définition, à plus de 10% des enfants ont des goitres. Et donc ça conduit à des campagnes de prévention qui consistent à délivrer dans ces populations du sel de table suffisamment supplémenté en iode pour lutter contre ces carences profondes en iode qu'il y a dans ces régions particulières du monde.
Madame,
y a-t-il des risques pour le fœtus chez une femme enceinte sous les lévothyrox ?
Alors, j'ai pas suffisamment complété ma réponse tout à l'heure. L'intérêt, l'objectif principal de bien adapter la dose de lévothyrox chez une femme enceinte, c'est justement de faire en sorte de bien suivre l'évolution physiologique de besoins d'hormones thyroïdiennes pendant la grossesse, besoin qui augmente. Donc si vous ne suivez pas cette augmentation et que, quelque part, cette femme est un peu sous-dosée en hormones thyroïdiennes pendant sa grossesse, que le taux de TSH est subtilement un petit peu trop élevé, eh bien, il y a des études qui ont démontré que ces enfants risquent surtout d'avoir un quotient intellectuel un petit peu moins bon dans les années qui suivent la naissance. Mais bon, c'est très subtil comme différence. Enfin, ça justifie une surveillance importante. Bon, alors évidemment, si une femme est très sous-dosée, ça peut provoquer des naissances prématurées, des choses plus compliquées. Enfin, bon, voilà. Et puis, après, il peut y avoir des risques pour le fœtus. Alors, par contre, le lévothyrox en lui-même, les hormones thyroïdiennes, n'ont pas d'effet direct néfaste sur le fœtus. Où il peut y avoir des conséquences sur le fœtus, c'est à l'inverse chez les femmes qui sont traitées pour une hyperthyroïdie. Parce que quand on est traité pour une hyperthyroïdie, on prend des médicaments antithyroïdiens de synthèse, et si le dosage est trop fort, eh bien ça peut freiner, puisque ces médicaments passent le placenta, ça peut freiner trop la thyroïdie fœtus et engendrer chez le fœtus une hypothyroïdie. Bon, alors ça, c'est à nous de donner des consignes aux obstétriciens de telle sorte qu'ils fassent un suivi à partir du troisième trimestre de la grossesse un suivi échographique précis du fœtus pour voir quel est leur thyroïde et si leur thyroïde fœtale est gonflée. On le fait à partir du troisième trimestre et non avant. Pourquoi ? Parce que jusque à la fin du deuxième trimestre, la thyroïde fœtale n'existe pas. Donc la thyroïde fœtale n'est sensible à ce qui vient de la mère en termes d'hormones ou en termes d'anticorps qu'à partir du moment où la thyroïde du fœtus existe, c'est-à-dire à partir du troisième trimestre. Puis il y a un autre phénomène un peu compliqué à comprendre, c'est qu'une patiente qui a une maladie de base d'eau, à côté du médicament antithyroïdien qu'elle prend, elle a des anticorps propres à sa maladie de base d'eau, qui sont le témoin de sa maladie. Ces anticorps passent le placenta et par eux-mêmes peuvent aller stimuler la glande du fœtus qui va naître avec une glande thyroïde gonflée et de l'hyperthyroïdie du fait des anticorps transmis par la mère. Et ces conséquences chez l'enfant vont petit à petit s'évanouir 1, 2, puis 3 mois après la naissance, c'est-à-dire une fois que les anticorps qui viennent de la mère ont naturellement disparu.
Alors, monsieur, ensuite, madame, et devant. Et puis, 3 autres questions encore qui sont écrites.
Après une ablation totale de la thyroïde, est-ce qu'on a une idée ou quelle est la durée moyenne du traitement pour rétablir l'équilibrage hormonal ?
Alors, comme je vous disais tout à l'heure, en pratique, donc, quand on enlève la thyroïde, les gens sortent avec leur traitement, donc commencent au deuxième jour après l'opération pour éviter cette phase d'hypothyroïdie. En pratique, dans la vraie vie, donc, on les revoit environ un mois après l'opération avec le résultat d'une prise de sang. Et je dirais que sur un plan statistique, 5-6 fois sur 10, on trouve tout de suite le bon dosage. En fait, le dosage est corrélé au poids de la personne. Et donc, on va continuer la même dose qu'on avait prescrite. Et puis, 4-5 fois sur 10, eh bien, il va falloir adapter un petit peu le traitement, soit un petit peu en plus, soit un petit peu en moins. Et on va se guider essentiellement sur la TSH après. Ce qui est important de savoir, c'est qu'il faut, quand on change un traitement, il faut attendre au moins 5-6 semaines avant de refaire un nouveau dosage pour avoir une idée précise de l'effet de la dose que vous donnez. Donc, il faut, des fois, on voit des gens revenir une semaine plus tard avec des dosages. Enfin, je pense qu'en médecine générale, ça peut se voir plus souvent. Et là, on ne peut rien tirer de ces résultats. Et il faut surtout rien tirer de ces résultats parce qu'ils n'ont pas de signification. Il faut savoir attendre, savoir être patient, savoir donner quelques semaines de délai entre les deux consultations.
Oui, parce que, bon, généralement, le chirurgien va prescrire d'emblée une dose probabiliste qui va, grosso modo, équilibrer le patient. Donc, il va prescrire, par exemple, 125 microgrammes d'hormones thyroïdiennes. Alors, cette 125 microgrammes d'hormones thyroïdiennes, ça va peut-être pas forcément être le dosage exact, mais ça va être le dosage correct à 90%. Ce qui veut dire que vous n'avez peut-être pas une couverture parfaite en termes de taux de TSH, mais vous avez une couverture largement suffisante pour éviter d'être complètement à la ramasse, de ne pas être bien, etc. Alors après, il y a un petit réglage à faire. Et comme l'a dit le professeur Krems, les erreurs viennent parfois du fait que on va trop vite en besogne, on redose les hormones une semaine après, alors que le résultat témoigne de l'effet de la dose d'avant. Donc on se mélange les pinceaux et on ne sait plus où on en est. Hein.
Bien attendre 4 à 6 semaines. 4
voilà.
6 semaines, c'est important. Parlez bien avec le micro, s'il vous plaît.
Si on observe des nodules à la fois sur les parathyroïdes et sur la thyroïde, est-ce que c'est lié ou est-ce que c'est deux problèmes complètement séparés ?
Non, alors la plupart du temps, c'est des problèmes complètement séparés. Hein. Ce sont deux glandes différentes, mais vous avez raison, on peut être amené, vu la fréquence des nodules thyroïdiens, à trouver dans des maladies d'hyperparathyroïdie, des maladies parathyroïdiennes, des nodules thyroïdiens, et on est amené à traiter les deux en même temps. Hein. C'est les nodules parathyroïdiens étant très souvent opérés.
Alors, on l'a dit tout à l'heure, c'est une situation absolument rare, mais si par exemple le professeur Krems opère au niveau d'une thyroïde un cancer de la thyroïde, un cancer un peu particulier, et qu'en même temps, il y a un adénome sur une parathyroïde, ça, c'est une situation idéale où il faut absolument rechercher une hérédité, c'est-à-dire aller rechercher une mutation particulière, aller faire une enquête dans les familles.
Des questions écrites. Quels sont les risques si l'on ne prend pas son traitement pendant plusieurs jours quand on n'a plus de thyroïde ?
Et le risque, c'est d'être en hypothyroïdie.
D'être comme la dame qui était sur la photo avec un myxodème, de ne pas être bien, d'être fatiguée, des signes d'hypothyroïdie, donc il faut très vite reprendre le traitement. C'est un traitement qui doit être pris tous les jours à jeun pour éviter les interactions médicamenteuses. Parce qu'il y a beaucoup de médicaments qui empêchent l'absorption donc, du lévothyrox à la prise. Donc il faut bien être à jeun le matin, au réveil.
Voilà, alors bon, ceci dit, donc on ne devrait pas le dire ce soir, c'est vrai qu'il faut le prendre tous les jours, c'est clair. Mais bon, il peut arriver que vous l'oubliez une journée, c'est absolument pas un drame. Vous reprenez la même dose le lendemain, ça ne va rien changer du tout. Ça va commencer à changer si vous l'oubliez pendant une semaine. Mais si vous l'oubliez une journée, de très rarement, ça ne va pas avoir de conséquences.
Je voulais juste dire, là, pour compléter ce que vous disiez, c'est que justement, il y a beaucoup de malades, ils disent, ah ben, docteur, je le prends dès que je me lève, je prends mon lévothyrox et je prends mes autres médicaments avec mon petit déjeuner après. C'est 3 heures, le délai. C'est pas une demi-heure. Et la plupart des malades pensent qu'ils font bien. C'est 3 heures pour certains médicaments qui interfèrent. Notamment tout ce qui est fer et tout ce qui est médicament pour l'estomac. Voilà, c'est surtout ça. Et le Kestre, un médicament pour le cholestérol.
2 ou 3 heures. Donc, l'exemple qu'on a cité tout à l'heure est un bon exemple. C'est la femme enceinte. La femme enceinte qui prend du lévothyrox, souvent une femme enceinte, on lui prescrit du fer. Bon, eh bien, une femme enceinte qui prend du fer au cours de sa grossesse et du lévothyrox, il faut surtout qu'elle respecte au moins un délai de 2 heures entre la prise du lévothyrox et la prise du fer. Sinon, elle va être sous-dosée parce que la combinaison, la simultanéité de prise du lévothyrox et du fer provoque une mauvaise absorption intestinale, une mauvaise assimilation du lévothyrox et on est sous-dosé.
Beaucoup de personnes nous ont demandé aussi d'apporter des explications sur la maladie d'Hashimoto.
La thyroïdie de Hashimoto, c'est une maladie qui est très fréquente, mais avec des degrés variables d'intensité d'hypothyroïdie. C'est donc une maladie à laquelle j'ai fait allusion tout à l'heure, c'est une maladie auto-immune, c'est-à-dire où l'organisme se retourne contre son soi, et en l'occurrence contre la thyroïde, ce qui provoque toute une réaction immunitaire qui fait que la glande thyroïde devient infiltrée par tout un tas de cellules qui s'appellent les lymphocytes, en particulier les lymphocytes T. Cette infiltration qui finalement inonde la thyroïde et qui détruit, qui remplace les cellules thyroïdiennes normales est en grande partie responsable du fait que la glande grossit. Et puis comme le nombre de cellules thyroïdiennes normales est remplacé par ces fameux lymphocytes, il n'y a plus assez de cellules thyroïdiennes pour fabriquer des hormones et on passe en hypothyroïdie qu'il va falloir substituer. Alors ces maladies auto-immunes, c'est vrai pour la thyroïdie de Hashimoto, mais c'est vrai pour beaucoup d'autres, ne sont pas soignables d'un point de vue spécifique. C'est-à-dire que ces maladies auto-immunes, on ne prescrit pas des médicaments immunosuppresseurs, par exemple. Pourquoi ? Parce que les médicaments immunosuppresseurs qu'il faudrait donner sur le long terme ont des effets indésirables propres qui sont bien supérieurs aux inconvénients de simplement se contenter de substituer avec du lévothyrox cette maladie. D'accord ? Donc on traite à vie ces thyroïdites de Hashimoto qui sont des maladies auto-immunes. Finalement, en endocrinologie, c'est une chance qu'on a, c'est que ces maladies auto-immunes, eh bien, on les substitue et on ne les soigne pas comme telles parce que sinon on a tous les effets secondaires des médicaments immunosuppresseurs. C'est l'exemple du diabète. Le diabète, on a une maladie auto-immune, c'est un peu le diabète sucré de type 1, c'est un peu la thyroïdite de Hashimoto des cellules de Langerhans. Eh bien, dans le diabète, on ne donne pas de traitement immunosuppresseur parce que ça ne marche pas et ça provoque des effets secondaires. On substitue avec des piqûres d'insuline. Quand vous avez une maladie auto-immune qui n'est pas une maladie, substituable, et que vous avez par exemple une maladie qui s'appelle le lupus érythémateux disséminé, eh bien là vous êtes ennuyé parce que vous n'avez pas l'équivalent du lévothyrox pour substituer, vous n'avez pas l'équivalent de l'insuline, et c'est là qu'il faut partir avec des traitements lourds, avec des corticoïdes, des immunosuppresseurs, et tout l'enclenchement des effets indésirables qui sont incontournables pour contrôler ces maladies auto-immunes.
Alors avant de continuer sur les questions écrites, est-ce qu'il y a des questions orales ? Vous levez la main. Voilà, on va se donner encore une dizaine de minutes. Alors, une ici et une derrière.
Je voudrais savoir s'il y a la prévalence des problèmes thyroïdiens sur la Vienne
est plus importante peut-être due à la présence de SIVO? Non.
Non, non. Enfin, a priori, il n'y a pas de. Et si on prend la France, les départements, il n'y a pas de région privilégiée où il y aurait plus de problèmes thyroïdiens que d'autres. Et pas de lien, bien sûr, avec la centrale.
Ok, monsieur.
Moi, j'aurais voulu savoir si, a priori, c'est plus grave d'être en hypo ou en hyperthyroïdie. Enfin, à part les cas extrêmes, quoi. C'est quoi le plus grave?
Je dirais que, quelque part, c'est quand même plus simple d'être en hypo qu'en hyperthyroïdie. Parce que l'hypothyroïdie, j'ai déjà dit plein de fois, ça se soigne simplement. On prend un comprimé d'hormones thyroïdiennes tous les jours. Et une fois qu'on a réglé le dosage, c'est fini. L'hyperthyroïdie, c'est plus compliqué. Parce qu'il faut prendre des médicaments antithyroïdiens. Je prends l'exemple de la maladie de basse d'eau. Pendant des mois et des mois. Puis quand on arrête le traitement, souvent ça repart. Donc à ce moment-là, il faut aller voir le chirurgien pour se faire enlever la thyroïde. Ou il faut aller voir Madame Boimpineau pour qu'elle vous fasse de l'iode radioactif pour assécher la thyroïde. Donc, globalement, je dirais qu'il vaut mieux avoir une hypo qu'une hyperthyroïdie. Bon, enfin, c'est une réponse très, très globale. Bon, il y a des cas d'hyperthyroïdie. Par exemple, le professeur Krems, tout à l'heure, a parlé de l'adénome toxique de la thyroïde. Ça, c'est simple. C'est un petit adénome. Donc, il opère, il enlève la partie de la glande où il y a l'adénome. Et après, c'est fini de façon définitive. Et il n'y a même pas besoin de prendre d'hormones thyroïdiennes derrière parce qu'il n'a pas enlevé l'ensemble de la thyroïde.
Le micro. Attendez, on va vous donner le micro pour que...
Moi, je ne parlais pas au niveau des médecins, je parlais au niveau de la personne. Enfin, comment, pour elle-même, qu'est-ce que c'est le plus grave? C'est d'être en hypo ou en hyper?
Ah, voulez dire le ressenti des symptômes?
Voilà.
Je dirais qu'à ce moment-là, à nouveau, je crois qu'il vaut mieux être en hypo qu'en hyperthyroïdie. Pourquoi? Parce que quand vous êtes en hypothyroïdie, vous êtes dans une espèce de situation de léthargie intellectuelle, où vous êtes désintéressé un peu de votre situation. C'est parfois une raison de retard au diagnostic, parce que vous négligez les troubles que vous avez et vous n'allez pas en parler à votre patient. D'accord? Donc voilà, tout fonctionne au ralenti, y compris votre réactivité à aller consulter un médecin. Par contre, l'hyperthyroïdie, quand vous êtes au taquet, complètement énervé, vous avez le pouls qui bat à 120, vous perdez du poids, vous êtes fatigué, je pense que globalement, c'est plus mal supporté que l'hyperthyroïdie.
Dans ma pratique, moi, l'hyperthyroïdie est quand même très, très mal supportée. Hein. Ils arrivent au cabinet, ils sont tachycardes, ils sont pas bien. Hein. Donc je pense que, oui, le moins bien supporté, c'est l'hyperthyroïdie.
Merci. Question, madame?
Oui, bonjour. Moi, j'avais une question qui avait trait aux glandes parathyroïdes. Quand on se fait retirer la thyroïde ou bien suite à un traitement à l'iode radioactif, qu'est-ce qui se passe sur nos parathyroïdes? Quelle est l'incidence d'un traitement à l'iode radioactif après une ablation de la thyroïde sur les glandes parathyroïdes? Elles sont saturées en iode? Elles sont détruites?
En ce qui me concerne d'abord, parce que c'est plutôt le Jean-Louis Krems qui va vous répondre, il n'y a pas d'effet de l'iode radioactif sur les glandes parathyroïdes. Aucun effet. Elles continuent de fonctionner si le chirurgien les a laissées.
Voilà. Non, si vous faites un traitement par l'iode radioactif, il n'y aura aucune conséquence sur les glandes parathyroïdes elles-mêmes. D'accord ? Donc là où il peut y avoir des conséquences sur les glandes parathyroïdes, c'est lors de l'intervention. C'est donc ce que je vous ai expliqué. Donc, bon, on a quand même la chance d'avoir 4 glandes. Je dirais que c'est déjà... Et des fois 5, des fois 6, parce qu'il y a des glandes surnuméraires. Donc des fois, on est très chanceux. Mais c'est vrai que ça doit être une des préoccupations du chirurgien. C'est de préserver ces glandes. À la fois la glande elle-même, bien sûr, mais aussi ces vaisseaux qui sont très fins. Vous l'imaginez, qu'une glande qui est grosse comme un grain de riz. Donc c'est là où ce geste est extrêmement minutieux. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ces glandes peuvent être traumatisées de l'ordre, dans une thyroïdectomie totale, dans 10% des cas. Hein. Donc c'est relativement fréquent. Ce qu'il faut savoir, c'est que les hypoparathyroïdies définitives sont par contre très rares. C'est-à-dire qu'en général, elles ont été préservées, elles ont été traumatisées au cours de l'opération. On a besoin d'un traitement substitutif par calcium pendant quelques semaines, voire quelques mois. Et puis, on peut arrêter et le fonctionnement reprend. Alors c'est vrai que quand c'est définitif, c'est un peu empoisonnant parce qu'il faut prendre du calcium de façon définitive et c'est relativement invalidant et difficile à supporter des fois pour les gens.
Oui, c'est compliqué à équilibrer une hypoparathyroïdie. Alors du calcium et de la vitamine D en plus du calcium. Voilà. Alors pour compléter ce que vient de dire le professeur Krems, pour minimiser au plus possible ce risque. Au niveau de la voix, il faut aller voir un chirurgien qui sait bien opérer la thyroïde, dont le professeur Krems. Parce que non, mais sérieusement, il faut aller voir quelqu'un qui opère plusieurs thyroïdes par semaine. Si vous allez vous faire opérer par un chirurgien généraliste, c'est pas très déontologique ce que je dis, mais malgré tout, c'est quand même la réalité. Si vous allez voir un chirurgien qui opère une thyroïde par mois, le risque qu'il y ait des soucis de cette nature est indiscutablement plus grand. Hein. Et puis, pour parler, je dirais, de l'opérateur dépendance de la question, si vous voulez avoir une évaluation précise des nodules thyroïdiens, eh bien, il faut aller voir un échographiste qui est compétent en... L'opérateur dépendance de l'interprétation d'une échographie est extrêmement importante. Hein.
Je suis tout à fait d'accord, je voudrais insister là-dessus. Non, l'échographie est un examen très opérateur dépendant. Alors maintenant, c'est vrai qu'il y a un consensus, il y a des recommandations faites auprès de tous les radiologues pour nous donner tous les renseignements qu'on souhaite avoir sur un nodule, mais on voit arriver encore des échographies avec des renseignements très pauvres. Et bon, on a quelques clichés qui sont des fois pas de très bonne qualité. Bref, c'est un examen opérateur dépendant et là aussi, je pense que c'est très important puisque ça va déterminer la stratégie thérapeutique d'avoir une excellente échographie et nous arrive de refaire faire une échographie si on estime qu'on n'a pas les renseignements suffisants, il ne faut pas hésiter à la faire refaire.
Est-il possible qu'il y ait un problème de thyroïde sans que rien n'apparaisse dans la prise de sang ?
Alors oui, bien sûr. Notamment dans les pathologies nodulaires, la plupart du temps, les nodules de la thyroïde ne fonctionnent pas, donc vous n'aurez pas d'anomalie du fonctionnement de la thyroïde. Vous aurez suffisamment de cellules normales autour des nodules qui assurent le fonctionnement normal, donc vous aurez une fonction normale et des nodules. Et ces nodules peuvent donner lieu à un cancer ou à des gros nodules ou un goitre plongeant, bref, donner un certain nombre de soucis sans pour autant que vous ayez d'anomalie dans le bilan sanguin.
Est-ce qu'une tension artérielle augmentée, élevée, peut donner des problèmes de thyroïde ?
Non.
Dans l'hypothyroïdie, la pression artérielle a peut-être tendance à baisser un peu, mais pas beaucoup. Dans l'hyperthyroïdie, il y a certains livres dans lesquels on lit que ça provoque de l'hypertension artérielle, mais non. Vraiment, il n'y a pas de relation... Il n'y a pas de relation sérieuse entre hypertension artérielle et thyroïde.
D'accord.
Où les relations sont sérieuses, c'est thyroïde et cœur, c'est-à-dire rythme cardiaque. Hein. Trop ralenti ou trop rapide.
Ok, merci. Une question encore ? Alors, on en a une là-bas. Et ensuite, on conclura en parlant des progrès et de la recherche.
Oui, j'aimerais savoir, à dosage égal de lévothyrox, pourquoi le dosage de TSH peut évoluer du tout au tout sans modification du traitement ?
Je peux parler ?
Généralement, quand le taux de TSH varie de façon importante avec un traitement non changé, c'est qu'il y a un facteur... qui n'a pas été bien analysé. On en a évoqué plusieurs. Hein. Le lévothyrox qui n'est pas pris à la bonne heure, où il y a une interférence avec un médicament. Quelques oublis d'hormones thyroïdiennes de temps en temps, parce que, le professeur Krems l'a dit tout à l'heure, si vous oubliez de temps en temps votre lévothyrox, bon, certes, vous pouvez vivre pendant plusieurs jours sans prendre de lévothyrox, mais si vous faites un oubli par semaine, multiplié par X semaines consécutives, ça finit par avoir des conséquences notoires sur le taux de TSH. Et puis alors l'exemple retentissant qu'on a tous eu sous les yeux au cours des deux dernières années et qui a été évoqué tout à l'heure, c'est le fameux problème du générique. Hein.
quelqu'un qui prenait 150 microgrammes de lévothyrox, qui, à partir du qui avait un taux de TSH impeccable et qui, passant au générique sous les décisions unilatérales du pharmacien, se retrouvait avec un taux de TSH à 120 deux mois plus tard. Hein. Sinon, logiquement, on arrive toujours à trouver quelque chose.
Je voulais juste rajouter...
Alors, moi, ça m'est, alors, en étant extrêmement policier, ça m'est arrivé plusieurs fois de voir des personnes, docteur, je ne comprends pas, mon taux de TSH à 120, pourtant je prends mon traitement, etc. Bon, allez, on augmente un peu, un mois plus tard, c'était pareil. Ça m'est arrivé de faire hospitaliser des personnes pendant deux semaines et de dire, voilà, vous prenez le lévothyrox sous nos yeux, la dose habituelle. Voilà, alors ils avaient que ça à faire, hein. On n'avait pas d'examen, le reste du temps ils regardaient la télé et tout, mais ils étaient là. Et puis au bout de deux semaines, on dosait la TSH tous les deux, trois jours, c'est-à-dire qu'on faisait le contraire de ce qu'on a dit de faire tout à l'heure, et puis avec la dose habituelle, et bien au bout de 15 jours, la TSH, elle revenait à la normale. Alors, vous savez, parfois on voit des tas de trucs, hein. Mais quand on cherche, on arrive toujours à trouver.
Je voulais juste rajouter que quand même, si on dose de la TSH à un moment au décours, par exemple, d'une intervention chirurgicale ou d'un épisode viral ou de n'importe quelle situation qui est anormale où, par exemple, les patients ont pris un traitement antibiotique, anti-inflammatoire, cette TSH, elle monte. Et la règle, c'est de ne pas tenir compte de cette modification de la TSH alors que vous prenez la même dose de lévothyrox et d'en refaire un ou deux mois après.
Alors, il y a un autre point que je voulais dire, parce que là aussi, ça dépend modification et modification. Moi, ce dont je vous ai parlé, c'est d'une personne qui a un taux de TSH à 2,5 et qui, deux mois plus tard, se dit, tiens, mon taux est à 70. Mais ce qu'on voit parfois en consultation, c'est des personnes qui viennent nous voir, docteur, c'est catastrophique, mon taux de TSH est à 5, alors qu'avant, il était à 2. Donc ça, pour moi, c'est... Ce sont des modifications, d'accord, qui sont mesurables sur le résultat, mais qui, concrètement, dans la vraie vie, n'ont pas de signification particulière. Hein. Vraiment, pour moi, passer de 2 à 5, c'est un non-événement. Hein.
Les antipaludéens aussi. Pour les gens qui voyagent beaucoup, il faut s'en méfier. Il y a un antipaludéen qui interfère énormément et qui vous fait faire monter la TSH à 60. Hein.
Ouais. Une question pour conclure sur la recherche et les progrès justement de la médecine. Vous pouvez nous faire un petit point là-dessus ?
Bon, tu veux y aller ? On va donner peut-être chacun notre oui. avis. Les recherches, elles sont essentiellement actuellement axées sur les aspects génétiques. Et on en a parlé un petit peu, mais pas beaucoup ce soir. Mais il y a énormément de recherches sur ces aspects-là. Sur l'aspect des cancers de la thyroïde et leur traitement, mais aussi leur pronostic. Je vous ai parlé tout à l'heure de petits cancers qui n'évoluaient jamais et de cancers qui étaient plus agressifs. Donc, il y a des recherches dans le domaine de la recherche de l'agressivité. Il y a des recherches et des progrès dans le domaine de la chirurgie actuellement, puisque on a développé beaucoup de techniques pour mieux faire l'hémostase, c'est-à-dire que ça ne saigne pas. Vous avez bien compris que cette chirurgie minutieuse, si on est inondé de sang, on ne voit pas cette petite structure qu'on doit protéger. Et donc, c'est une chirurgie qui ne doit pas saigner. Donc, on a développé des outils actuellement qui sont extrêmement précieux dans ce domaine. Enfin, on a parlé aussi des complications nerveuses au niveau des cordes vocales, ces fameux nerfs qu'on dissèque et que l'on doit préserver lors de la chirurgie. Maintenant, on les contrôle par ce qu'on appelle neuromonitoring. C'est-à-dire qu'on met une sonde d'intubation un peu spéciale avec des électrodes. Et ça nous permet de stimuler ce nerf pendant toute l'opération, de le suivre. Et on a cette technologie maintenant depuis plusieurs années. Et ça nous permet d'opérer en plus grande sécurité ces thyroïdes en préservant bien les nerfs.
En ce qui concerne les explorations de la thyroïde, bon, il est certain que plus les sondes échographiques vont évoluer, plus on aura des sondes beaucoup plus performantes. Quand on voit des échographies d'il y a 15 ans et celles de maintenant, ça n'a rien à voir. Donc, il est certain que plus on arrivera à avoir une approche de la suspicion de malignité ou pas avec l'évolution des techniques échographiques. De même, actuellement, il existe une autre technique qui est à l'étude et qui est à la recherche, qui est en fait l'étude de la résistance des tissus thyroïdiens, c'est l'élastographie. En fait, on dit que l'échographie, c'est le prolongement de la palpation et des doigts, et qu'un nodule qui est induré à la palpation est plus suspect d'être malin qu'un nodule qui est souple. Donc l'élastographie, elle a pour but en fait de chiffrer un peu cette résistance à la dépression des nodules thyroïdiens. Mais c'est une étude qui est à la recherche encore. De même, on peut espérer que dans le matériel de cytoponction, c'est-à-dire dans les frottis que l'on fait, des études puissent être faites de certains marqueurs de tumoraux. Ça aussi, c'était la recherche.
Je crois que les deux personnes qui devaient s'exprimer sur les progrès sur la recherche l'ont fait, parce que dans le domaine de l'hyperthyroïdie, enfin, maladie de basse dos et hypothyroïdie, thyroïdie du Hashimoto, on connaît mieux ce qui se passe parce que les personnes ont été étudiées de façon plus structurée pour comment suivre une maladie de basse dos. Mais sinon, vraiment, il n'y a pas eu de progrès fondamentaux au cours des 20 ou 30 dernières années. Et puis, on n'en voit pas beaucoup arriver dans les 10 dernières années. On prescrit des hormones thyroïdiennes pour substituer une hypothyroïdie exactement de la même façon maintenant qu'on le faisait il y a 30 ans. Et on n'annonce pas de changement dans les 10 ans qui viennent. Sauf qu'il y a 30 ans, il n'y avait pas de générique. Maintenant, il y a des génériques, mais ça, ce n'est pas un progrès. Bon, enfin pour le lévothyrox. Bon, alors le lévothyrox, les conditionnements sont arrangés. Maintenant, il y a des compris à 25, à 50, tout ça, donc on peut organiser mieux les doses. La maladie de basse dos, c'est pareil. La maladie de basse dos, c'est exactement la même chose qu'il y a 30 ans. On prend des antithyroïdiens de synthèse, on est traité à l'iode radioactif, ou on est opéré, donc avec des techniques chirurgicales qu'on évolue. Mais fondamentalement, le traitement de la maladie de basse dos n'a absolument pas évolué parce que on n'a pas d'avancée ni au cours des dernières années ni prévue dans les années qui viennent pour le traitement de la maladie intrinsèque, c'est-à-dire de la maladie auto-immune. Même quand on a par exemple les yeux qui sont très ressortis et qu'il faut traiter en plus du traitement antithyroïdien avec des fortes doses de corticoïdes, globalement, les modalités thérapeutiques ont peut-être un peu évolué avec des bolus de corticoïdes, mais enfin, globalement, ça n'a pas changé depuis 30 ans. Donc vraiment, où ça a plus évolué sur les techniques chirurgicales et puis sur les explorations, puis un perfectionnement, une expérimentation des cytoponctions, de l'interprétation des nodules et tout ça.
Parfait, on voit que c'est un sujet qui intéresse. En tout cas, on pourra reprogrammer une troisième session, je pense. Je voudrais qu'on remercie énormément.
Je ne suis pas sûr qu'il y aura beaucoup de nouveaux sur ce que j'ai fait.
On fera une piqûre de rappel alors. Applaudissez vraiment nos intervenants de ce soir. Ne partez pas encore parce que je vais vous donner le prochain thème du mois de février. Je ne sais pas pourquoi, je pense que ça va vous intéresser. Je voudrais remercier aussi l'organisation, bien sûr, le CHU et l'Espace Mendès France. Toute l'équipe technique également, les traducteurs. Merci mesdames, traductrices. Et puis vous, public, bien sûr, pour votre interactivité. Je rappelle que vous pouvez réécouter l'ensemble de cette soirée, de 2 heures de soirée, donc sur le site de Mendès France et sur le site du CHU. Pensez à remplir vos formulaires, évidemment, ils sont très importants. Et puis, le prochain rendez-vous, donc, aura lieu... Bon. Alors, je voudrais aussi vous donner des nouvelles...
Je pense qu'on peut aussi applaudir le monsieur qui a fait un gros malaise et qui a eu le courage de revenir dans la salle.
Il va très bien, voilà.
Bon.
Il va très bien. Je voulais vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année, vous dire que le prochain rendez-vous avec Pôle Info Santé aura lieu le 7 février, vous pouvez le noter, le 7 février avec un sujet qui, à mon avis, ne va pas vous intéresser. Je pense qu'il va falloir agrandir les murs, enfin la salle en tout cas. Le thème, les pathologies de la colonne vertébrale. Je vous souhaite une très bonne soirée, merci de votre fidélité et à très bientôt. Au revoir.